Merci d'être là. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ceux qui sont un peu réguliers à ces séances, il y a eu une longue pause. Ça peut ressembler aux pauses universitaires. On durait un petit peu plus longtemps. On aurait pu reprendre en octobre. J'étais indisponible dans notre sacro-saint quatrième mardi du mois, donc j'ai préféré reporter à novembre. Et puis la prochaine fois, ça sera plus commode pour moi. C'est pas moi qui le ferai. Vous savez que là, on a commencé ça il y a un peu plus d'un an maintenant. En janvier dernier, pardon, ça fait pas tout à fait un an, on a eu 8 séances, dont une qui a été animée par les amis de la commune, à propos de la commune de Paris. Les autres, c'est moi qui m'y suis mis, mais avec bonheur d'ailleurs, c'est toujours un bon exercice de révision pour ceux qui préparent. Mais je vais essayer d'alterner l'année prochaine en prenant des axes plus thématiques. Là, je continue, on va encore continuer quelques séances à suivre le déroulement chronologique. On est parti d'assez haut, puisque on a fait les premières séances au démarrage sous l'Ancien Régime, puis le début du 19e. Donc là, on sent qu'on approche à des périodes contemporaines, d'ailleurs tellement contemporaines qu'il y a déjà des gens ici qui les ont connues, dont on va parler ce soir. Donc là, on arrive plus près du temps présent. Et puis après, j'essaierai plutôt des entrées thématiques. Mais dans ce cas-là, on les fera avec les gens qui sont un peu spécialistes des questions. Je pense à la question du logement, par exemple, à la question, on avait vu des gens à Attac qui s'occupaient de la fédération gymnique et sportive, donc le sport dans le mouvement populaire, etc. On peut trouver plein d'entrées thématiques pour compléter ce premier panorama qu'on aura fait au cours de l'année 2008. La prochaine fois, donc, je vous recommande vivement, alors d'autant plus vivement que c'est pas moi qui le fais, donc ça ne heurtera pas ma modestie, c'est Bernard Friot qui viendra nous parler de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est quand même le grand moment de fondation de l'État social et de l'institutionnalisation du salariat. C'est une grande histoire qui commence pas en 45. J'en ai déjà parlé un petit peu la dernière fois, j'en redirai un ou deux mots ici. Mais Bernard, qui est un grand spécialiste de la question, nous remettra ça en perspective avec le souffle qu'il a pour parler de ça. C'est un grand moment d'entendre Bernard Friot parler de la sécurité sociale. C'est presque un cadeau de Noël une semaine avant. Donc venez le 17 décembre, bloquez vos agendas, ça sera bien. J'étais content qu'il puisse le faire à cette date-là. Alors aujourd'hui, on va parler d'une période qui est brève. D'habitude, on parcourt des décennies. Là, on va parcourir un tout petit moment d'histoire, moins d'une dizaine d'années, enfin une dizaine d'années, disons, entre 34, 35 et 45, 44. Je mettrai de côté tout ce qui a trait à l'après-guerre. Donc c'est une période brève, mais qui nous fait passer par deux états assez opposés. C'est une période très dense de l'histoire sociale, qui nous fait passer du Front populaire, grand moment de politique sociale, à Vichy, à l'occupation, qui a la négation même du social. La question même d'une politique sociale à Vichy est une question un peu saugrenue, enfin, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se soit rien fait au cours de cette période, comme on va le voir. Mais donc, ces moments-là sont tellement significatifs que ça vaut le coup de s'y arrêter, de voir comment on passe, finalement, dans ce bref laps de temps, à deux situations aussi contrastées, avec d'ailleurs, par parenthèse, le même Parlement. C'est-à-dire que c'est l'Assemblée nationale élue en 36, donc de Front populaire, qui va également investir le maréchal Pétain et lui confier plein pouvoir en 1940. Le reste de l'histoire n'était pas forcément écrit dans cet acte d'abdication un peu de la République, puisque aussitôt élu, le maréchal a instauré l'État français et la mise au placard de la Troisième République. Donc c'est un moment singulier à pas mal de points de vue, y compris politique, qu'on va traiter ce soir. Alors la période du Front populaire, elle est assez connue finalement, parce que c'est à peu près la seule qui surnage dans l'histoire qu'on parcourt dans le système scolaire, quand on fait le XXe siècle. Le Front populaire arrive à se glisser entre les deux guerres mondiales et la crise de 1929, donc les épisodes en sont un peu connus, bon, je les rappellerai malgré tout. La période de Vichy l'est moins, et elle l'est moins parce que pendant très longtemps elle a été un petit peu occultée. C'est les pages les plus sombres de l'histoire contemporaine française. Pendant très longtemps d'ailleurs, il y avait une sorte de chape de plomb sur la période de Vichy. Si on prend par exemple le bouquin de René Raymond de 1954, je crois, sur les droites en France, qui est vraiment une somme, un gros livre qui a fait référence très longtemps, il consacre quelques pages à Vichy, qui sont une sorte d'accident de l'histoire. Alors après, il y a Robert Aron et Georges Etelger qui ont fait aussi un livre qui allait un petit peu plus loin sur Vichy, mais c'est finalement l'historien américain qui s'appelle Robert Paxton qui a mis un peu les pieds dans le plat, si j'ose dire, en 1974, avec son bouquin qui s'appelait « La France de Vichy », qui était un petit peu provocatrice d'ailleurs pour beaucoup d'historiens français, où il allait assez loin et il a stimulé du coup un certain nombre de recherches, comme celle d'Henri Rousseau, qui a été un grand, qui est à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, et autour de ses travaux. On a remis à jour un petit peu, bon, maintenant on peut dire qu'on a une vraie connaissance historienne de Vichy, il fallait probablement quelques décennies pour que ça passe. On se souvient encore de l'émotion qui avait été provoquée par le bouquin de Pierre Péan, Une jeunesse française, sur la vie de Mitterrand, et notamment cette période qui n'était pas connue, où il était à Vichy, enfin, son engagement un petit peu avant, dans les années 34-35, dans un mouvement d'extrême droite, mais cette ambiguïté qui avait mis à jour, cette ambiguïté finalement des relations d'un certain nombre de gens avec Vichy, y compris parmi ceux qui étaient connus comme ayant été des résistants. On se rendait compte que parmi ceux qu'on reconnaissait comme ayant participé à la résistance, eh bien beaucoup finalement étaient entrés en résistance tard, bon ça on le sait, mais certains même avaient fait le voyage à Vichy pendant quelques temps. Et ça apprend finalement, et là on va devoir le faire quand on va parler des syndicats sous Vichy, il y a besoin d'apprécier ça avec nuance et puis en observant les périodes, parce qu'il y en a eu plusieurs. Alors concernant le mouvement ouvrier et les syndicats, il y a eu pas mal de choses publiées plus récemment, enfin depuis une quinzaine d'années sur les syndicats et Vichy. Il y avait un bouquin en 92 qui était les actes d'un colloque sur les ouvriers pendant l'occupation. Il y a eu un livre de Jean-Pierre Lechrome, qui est un historien de Nantes, qui avait fait sa thèse là-dessus et qui a publié un livre qui s'appelait « Syndicats, nous voilà hein, ». C'était les syndicats sous Pétain. Et puis récemment, un gros livre, j'aurais dû l'apporter d'ailleurs pour vous le montrer, puis il y a des annexes intéressantes, qui s'appelle « Le syndicalisme dans la France occupée ». C'est un colloque d'historiens qui ont ramassé plein de contributions, des monographies sur des situations de fédération, des unions départementales, qui ont examiné, comme le font les historiens, avec beaucoup de minutie dans le détail, à partir d'archives sont critiqués aussi, parce que évidemment on n'a pas tout sous cette période-là, et finalement tout ne s'écrivait pas non plus, donc il n'y a pas que les archives à faire parler, mais on voit, on a eu un petit séminaire il n'y a pas très longtemps avec les historiens qui l'avaient fait, je vais discuter un peu ce bouquin, donc ça m'a servi pour la séance de ce soir, mais ça m'a appris aussi surtout à regarder avec nuance toutes les ambiguïtés de cette période-là. Il y a eu des engagements très forts dans les deux sens, dans la résistance ou dans la collaboration, mais la grande, je reviendrai plus en détail, la grande caractéristique, c'est tout ce qu'il y avait entre les deux. Et c'est là qu'il faut regarder avec détail, parce que bon, il y a eu des héros, il y a eu des salauds, mais la grosse majorité des gens étaient évidemment, comme les syndicalistes d'ailleurs, dans cet entre-deux où il faut décliner plusieurs positions. Alors, commençons d'abord, parce que cette affaire ne tombe pas du ciel, Vichy, bon, ça s'inscrit dans l'histoire des années 30, on en a parlé la dernière fois, et je voudrais commencer un peu par ça, par comment, comme je fais couramment, c'est-à-dire avec ce filtre de la question sociale, comment se pose la question sociale dans ces années-là. Et je vous avais dit qu'après, la dernière fois, après la guerre de 14-18, finalement, la question reste celle du statut social des ouvriers, hein, reprenant cette formule que je cite souvent, je l'aime bien, d'Auguste Comte, qui donc a déjà 1854, qui disait « les ouvriers campent dans la nation ». Et ils n'ont pas cessé de camper finalement dans la nation, au point qu'en 1919, Léon Jouhaud, le dirigeant de la CGT de l'époque, reprend la formule et dit « au sortir de la guerre, les ouvriers doivent cesser de camper dans la nation ». Et toute la bataille que va mener la CGT dans ces années-là, c'est pour qu'advienne enfin un système d'assurance sociale. Je dis enfin parce qu'il y avait eu quelques tentatives, et surtout la France est très en retard sur ses voisins, ses voisines, l'Angleterre, l'Allemagne. En Allemagne, on sait que depuis Bismarck a été mis en place un système d'assurance sociale, au début du XXe siècle, un système de couverture du chômage en Angleterre, etc. En France, il n'y a rien de tout ça. Elle est très en retard. Il y a beaucoup de débats parlementaires, de débats de juristes, etc. sur ces questions, j'en ai rendu compte dans des séances précédentes, mais au point de vue réalisation, on est encore très très loin. Il y a eu une loi adoptée en 1930, j'en ai parlé la dernière fois, qui a installé enfin un système d'assurance sociale. Bon, il s'était passé un certain nombre de choses, hein, que, notamment le patronat n'était pas resté inactif, il avait créé avec des caisses mutuelles, avec des mutuelles, ce qu'on appelait les caisses affinitaires, où les salariés versaient des cotisations. Les syndicats aussi d'ailleurs ont organisé ces caisses affinitaires par branche. Le syndicat du livre, par exemple, était le plus avancé sur un système comme ça, mais aussi les dockers, mais aussi certaines professions à forte identité professionnelle avaient constitué des caisses de retraite locales, mais il n'y avait pas véritablement de système de retraite. Hein. C'était un peu un manteau d'Arlequin, cette affaire. Il y avait des lieux, il y avait 1 million de travailleurs, de retraités en 1935, avec des niveaux de retraite extraordinairement faibles, donc qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on peut appeler une couverture qui assure les vieux jours, des vieux travailleurs, comme on disait à cette époque-là. J'ai évoqué également la question des conventions collectives, puisque notre pays aussi n'était pas très en avance là-dessus. Il y a eu une loi en 1919, elle a été adoptée parce qu'elle était inscrite dans les obligations du traité de Versailles, donc la France a mis en place, mais l'État s'en est guère occupé, le patronat n'en voulait pas, et les syndicats ont été rapidement affaiblis. Donc au bout de quelques années, les conventions collectives étaient tombées en désuétude, et donc on est encore dans une situation d'extrême précarité de la condition ouvrière, même si dans ces années 30, après on va le voir, et évidemment au moment du Front populaire, ces années mettent en place un peu des facteurs d'appartenance pour la classe ouvrière qui font qu'à la fin de cette décennie, on ne pourra plus totalement dire que les ouvriers campent dans la nation. On commence à voir se stabiliser la condition ouvrière et, comme le dit Castel, vous savez que c'est souvent ma référence, que malgré tout, c'est constitué à cette époque une espèce de mise à distance entre la condition de vie des ouvriers et l'immédiateté des besoins. Alors, cela dit, c'est une stabilisation extrêmement relative. Par exemple, en 1935, le budget de l'alimentation représente 60% du salaire ouvrier. C'était 65% en 1912. Donc, il y a une progression, mais enfin, elle n'est pas radicale. Et par exemple, en France, la question du logement, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, reste dramatique. On construit 70 000 logements en France par an dans ces années-là, contre 250 000 en Allemagne. Vous voyez qu'on n'est évidemment pas dans des mêmes ordres de grandeur. Alors, je vous avais dit la dernière fois, le syndicalisme est divisé. On a une CGT qui a éclaté en 1921. Elle est partagée donc entre une CGT réformiste qui assume une certaine recherche d'intégration dans l'État, une démarche auprès des pouvoirs publics, la volonté de développer les assurances sociales, mais elle n'a pas beaucoup d'armes concrètes pour l'imposer. Et de l'autre côté, la CGTU, qui rapidement deviendra dominée par les communistes. Le Parti communiste, à cette époque-là, la mouvance communiste n'a pas du tout l'influence qu'elle aura plus tard, après le Front populaire, ou encore plus après la Libération. Les communistes sont minoritaires, et la CGTU aussi. La CGTU comme unitaire, ils vont garder, les communistes, dans le mouvement syndical assez longtemps, cette qualification d'unitaire. On verra pourquoi la CGTU est porteuse, jusqu'en 1934, de la ligne communiste dominante à cette époque, qui est inspirée par le Comintern, puisque le Parti communiste en France et la CGTU étaient très orientés vers Moscou, comme on disait. Et cette tactique, c'est ce qu'elle appelait la tactique classe contre classe. C'est une tactique très de lutte frontale. Les communistes étaient invités à se battre non seulement contre les fascismes montants en Europe, et il commençait à y en avoir pas mal, mais aussi contre la social-démocratie, contre les partis communistes, qui étaient considérés par le Comintern comme des alliés objectifs de la bourgeoisie, et finalement, parfois même, ça a été dit en Allemagne, encore plus dangereux que les nazis. Donc c'est un peu une erreur historique qu'a fait le mouvement communiste à cette époque. Ils s'en sont rendus compte en 1934, où justement la consigne est devenue la consigne des fronts de classe, des fronts populaires, donc l'inverse de la tactique classe contre classe, recherchée avec les organisations ouvrières socialistes ou social-démocrates, un accord stratégique dans lequel entraient aussi certaines considérations de sécurité pour l'Union soviétique, avec la guerre qui venait, la recherche d'alliances, disons, dans le dos de l'Allemagne, pour l'Union soviétique, qui a évidemment inspiré aussi cette démarche de résistance au fascisme. On peut ajouter à ce panorama syndical très vite parcouru un petit syndicalisme chrétien qui n'est pas très influent à cette période-là, qui le sera plus après 36 et plus surtout après-guerre. Je me propose d'ailleurs de faire une séance là-dessus, particulière, sur l'histoire du syndicalisme chrétien en France, qui produira plus tard la CFDT, donc une composante importante. J'en ai pas trop parlé les fois précédentes, parce que c'est une histoire très spécifique, et donc le mieux est de la traiter en une séance. Alors, Lefranc, qui est l'historien de cette période de référence, qui était aussi lui-même un acteur, d'ailleurs, puisqu'il s'occupait de la formation à la CGT, C'est un professeur d'histoire, normalien, etc. Donc, un vrai historien professionnel, a résumé cette période en parlant de réformistes qui n'ont pas obtenu de réforme, opposés à des révolutionnaires qui n'ont pas fait la révolution. Et effectivement, le mouvement syndical arrive en 1935 dans un état relativement déliquescent. Alors, qu'est-ce qui va conduire, en peu de temps finalement, à cette dynamique politique qui va déboucher sous deux aspects? Un, la fusion syndicale, la CGT va se réunifier en 1936, et dans la foulée, à la victoire du Front populaire. Alors, il y a deux grands facteurs qui l'expliquent. Le premier, c'est la crise économique qui se fait sentir en France, vous savez, avec un peu de retard par rapport à la crise américaine, hein, qui part à Wall Street, 1929, le jeudi noir. On en a pas mal parlé ces temps-ci. Et qui, comme toujours, les crises financières ont leur traduction dans l'économie réelle. En France, ça s'est fait avec retard, et finalement, c'est presque vers 33-34 que les effets de la crise sont les plus importants. Alors, la crise, c'est un effondrement, avec une grande déflation, hein. À cette époque-là, la production chute, les prix baissent, les revenus agricoles, c'était important. N'oubliez pas que la France était encore à cette époque-là un grand pays agricole, et d'ailleurs c'est au recensement de 1931, que la population rurale équivaut à la population urbaine. En Angleterre, c'était un siècle avant cette équivalence. Donc on est encore dans un pays qui n'a pas fait son exode rural, donc les revenus agricoles sont évidemment une forte composante économique. L'indice moyen des revenus est passé de 100 en 1928 à 70 en 1935, une chute de 30% des revenus, et les salaires sont passés de 100 à 75%, les revenus agricoles de 100 à 41%. Donc on a une chute brutale qui évidemment a plongé une grande partie de la population dans un état de misère très important. Le chômage est important, mais la grande misère n'est pas entièrement due au chômage. Il n'y a pas de système de décompte des chômeurs comme on a aujourd'hui, encore qu'il ne soit pas totalement vierge de tout arrondi, disons, le chiffre du chômage aujourd'hui. À l'époque, on parle des chômeurs secourus, ceux-là on les compte. Il y en a 430 000 à peu près en 1935. On pense qu'il y a probablement 2,5 fois plus de gens sans emploi que cela. Donc 1 million de chômeurs, et que ce n'est pas une population active de 20 millions. On n'est pas dans des taux extravagants, enfin c'est beaucoup, c'est pas beaucoup plus que la situation qu'on vit actuelle. Mais c'est surtout l'effondrement des revenus qui avait plongé les gens dans la misère, notamment dans les campagnes. Et à cette époque, les ouvriers avaient encore un lien à travers la famille, à la terre, et donc des solidarités importantes dans ces catégories de la population. Mais le salaire ouvrier avait baissé en 5 ans entre 12 et 20% pour ceux qui avaient un emploi. Donc, pour ne pas parler des autres. Donc ça, c'est le premier critère, premier affaiblissement de la situation ouvrière. Bon, j'évoque en passant les 500 000 immigrés qu'on a renvoyés chez eux, pour l'essentiel des Polonais, des Italiens et des Belges. Il y avait plus de 2 millions de travailleurs immigrés en France à cette époque-là, qui étaient venus après-guerre, dans les mines, dans la sidérurgie, là où les ouvriers français ne voulaient plus aller, et puis là où l'insuffisant exode rural ne fournissait pas assez de bras à l'industrie. Donc, comme toujours, on est allé chercher les travailleurs ailleurs. Et puis là, comme on était en période de crise, ben on les a mis dehors. Il y en a 500 000 quand même qui ont été déplacés entre 31 et 34. Bon, vous voyez que ce n'est pas non plus très nouveau, les reconduites à la frontière. Alors, le deuxième grand facteur, c'est la montée du fascisme. Et c'est vrai que si on regarde la carte d'Europe en 1934, elle présente quelques couleurs brunes. Alors, il y a l'Allemagne qui est devenue régime nazi en 1933, il y a Mussolini qui est en Italie depuis 1924, Salazar au Portugal, Dollfuss en Autriche, Horthy en Hongrie, la Roumanie est un régime fasciste, les Pays-Baltes ont un régime fasciste, le mouvement rexiste est très puissant en Belgique, il y a eu la phalange espagnole, bon, bref, la carte, à part l'Angleterre et la France, la carte d'Europe est quand même un tout petit peu brune, et donc, alors, lorsqu'on parle de menace fasciste, c'est pas un fantasme, mais il y en a un aussi à l'intérieur. Vous savez qu'il y a les ligues, parfois d'anciens combattants, mais les jeunesses patriotes, les croix de feu, toutes ces ligues plus ou moins appuyées sur les anciens combattants, l'action française de Léon Daudet, Charles Maurras, Maurice Pujot, etc. Et c'est eux qui vont mettre le feu aux poudres, si j'ose dire, avec la fameuse manifestation du 6 février 1934, qui marche sur l'Assemblée nationale, etc. Et Donc c'est ces deux facteurs-là, hein, la crise et cette menace fasciste, qui va conduire à la dynamique de rassemblement populaire, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle au départ, et qui va provoquer une union des forces de gauche, le Parti socialiste, le Parti communiste, le Parti radical, qui est de toutes les combinaisons politiques depuis 1919, même avant, hein, mais qui est un parti de classe moyenne, à moitié rurale, mais surtout à gauche pour des raisons de laïcité. Et dans notre pays, la question laïque a souvent servi de point de clivage entre la droite et la gauche, notamment au début du siècle et à la fin du 19e, et le Parti radical est encore très porteur de cette caractéristique politique. Mais autour d'Herriot et de quelques autres, le Parti radical se trouve emporté dans cette logique de rassemblement populaire. L'urgence se maintient d'ailleurs au-delà de 34, parce qu'il y a un mouvement dont on parle assez peu finalement, c'est ce mouvement des Croix de Feu, qui est un mouvement assez original du colonel Delaroque, qui est une ligue fasciste, mais qui se distingue un peu des autres. Par exemple, elle est ultra-patriote, ils seront maréchalistes pendant la guerre, mais ils ne seront pas collaborationnistes avec l'Allemagne, avec l'occupant. Par nationalisme d'ailleurs, ils ne tomberont pas dans la dérive que connaîtront les autres partis d'extrême droite, comme celui de DA, le RNP ou Doriot, avec son Parti populaire français qui défilera sous l'uniforme de la Wehrmacht, enfin des SS. Les Croix de Feu deviennent en peu de temps un parti de masse entre 1935 et la guerre, avec près de 300 000 adhérents, hein, ce qui est pas tout à fait rien. Et il avait créé une confédération syndicale, en utilisant d'ailleurs vous savez que les ligues ont été dissoutes par le Front populaire, hein, il y a eu un décret de dissolution des ligues, et derrière certaines ont reconstitué des partis, évidemment c'est classique, et notamment Delaroque a reconstitué les ligues les Croix de Feu sous l'appellation de Parti Social Français, PSF donc. Et ils ont constitué en même temps des syndicats professionnels français, avec une confédération des syndicats professionnels français. Bon, qui n'a pas laissé de grandes traces dans l'histoire, mais qui, dans ces années-là, a eu un véritable recrutement. Ça a été un peu un éclair. Elles ne sont pas reconstituées à la Libération, on comprendra pourquoi à la fin, mais il faut les citer parce qu'ils ont joué un rôle dans le mouvement social à cette époque-là. D'ailleurs, Delaroque a voté toutes les lois du Front populaire. Il avait un programme social. Il s'opposait beaucoup à l'Action française, d'ailleurs, pour qui seul l'important était le politique. Delaroque et le PSF disaient que non, le social était fondamental. Hein. C'est une tradition, si vous voulez, d'un espèce de fascisme populaire. Il ne faut pas oublier, malgré tout, c'est peut-être pas très glorieux, mais qu'en France, on a obtenu les 40 heures à l'issue de ce grand mouvement de grève générale, mais que les 40 heures et les congés payés avaient été... pas les 40 heures, les congés payés ont été accordés en Allemagne par le chancelier Hitler et en Italie par Mussolini. Pas des choses très, très agréables, mais c'était des fascismes qui reposait sur une base qui était quand même de satisfaire un certain nombre de revendications ouvrières. Alors, il y a donc tout ce mouvement qui se met en place vers le rassemblement populaire, je ne l'ai pas évoqué, mais le comité de vigilance des intellectuels antifascistes, le comité Amsterdam-Plegel, enfin, on a plein une espèce d'ébullition, de rapprochement entre des mondes qui étaient très séparés, parce que socialistes et communistes se menaient une guerre de tranchées, hein, depuis 1920-21, depuis la scission communiste. Dans le monde syndical, c'était pareil. Entre la CGT et la CGTU, les oppositions étaient extrêmement fortes. Et finalement, il y a une dynamique sociale et politique qui fait que tout le monde est pris au fond dedans, y compris la fusion syndicale est assez surprenante, hein, si on regarde bien l'état des relations entre les deux groupes dirigeants de la CGT et de la CGTU. Certains d'ailleurs ont plus subi le processus unitaire qu'ils ne l'ont véritablement orchestré. Et donc, l'insécurité économique a été renforcée par cette insécurité politique, hein, que faisait peser la menace fasciste, et tout ça a fini par être à l'origine de ce grand rassemblement populaire. Alors, si on regarde bien le vote, puisque les élections ont lieu en avril, fin avril 1936, c'est pas un raz-de-marée de la gauche. Hein. Le déplacement des voix est très... Alors, il y a des déplacements très importants, mais au total, entre les deux camps, si vous voulez, il y a un déplacement de 2 points. Mais c'est déjà un système uninominal à 2 tours, donc 2 points, quand ils sont bien placés, quand ils sont bien répartis, ça peut faire basculer beaucoup une élection. Le taux de participation est très élevé, mais il était très élevé en 1932, hein, qui était le moment électoral précédent. C'est surtout le Parti radical qui perd 400 000 voix. La SFIO en gagne un peu, 200 000 voix. Elle en faisait 2 millions en 1932, elle passe à 2 millions 2. Le Parti communiste fait une vraie trouée. Hein, il passe de 780 000 voix à 1,4 million. Donc lui, fait une véritable trouée. Mais avec les pertes du Parti radical, au fond, la gauche ne progresse pas énormément. Mais avec le système électoral, le second tour donne 376 élus au Front populaire. Et comme le Parti socialiste, c'est pas forcément une surprise, mais enfin, jusque-là, le Parti radical était toujours devant. Là, c'est le Parti socialiste qui a le plus grand groupe parlementaire avec 146 députés. Les radicaux n'en ont plus que 116. Et le rapport est indispensable, mais c'est tout naturellement Léon Blum qui va être pressenti pour diriger, être le président du Conseil de ce Rassemblement populaire. L'élection était le deuxième tour le 4 mai, hein, et à cette époque-là, la transition entre les deux gouvernements faisait, ça c'est un peu la situation américaine aujourd'hui, hein, il y avait un mois entre la prise de fonction, enfin l'élection et la prise de fonction du nouveau gouvernement. Donc le 5 juin, le président du Conseil devait présenter son programme à l'Assemblée, donc il y a eu un espèce d'interrègne entre les deux. Alors Léon Blum est pressé d'ailleurs par beaucoup de ses amis pour ne pas attendre, demander à Albert Sarraut, qui était le président du Conseil, de bien vouloir démissionner pour céder la place, ce que, dit-on, Sarraut aurait bien fait volontiers, mais Blum n'était pas pressé du tout. Il ne voulait pas hâter le mouvement, il voulait respecter jusque dans ses formes les plus intimes le rituel républicain, il ne voulait pas bousculer les choses. Mais c'est un mois qui a été quand même malgré tout très, très animé, et notamment une surprise qui est d'abord un débat qui s'instaure dans la gauche, c'est-à-dire aujourd'hui tout est-il possible ou tout n'est-il pas possible, quel est le sens de ce vote pour le Front populaire, qui avait un programme quand même relativement audacieux pour l'époque. Vous savez que le Parti socialiste lui-même d'ailleurs a été traversé de ce débat entre son aile gauche, les pivertistes, hein, qui dirigeaient la Fédération de Paris, un courant qui s'appelait la gauche révolutionnaire, et qui, c'était un article qu'avait fait Marceau Pivert dans le Populaire, qui était le journal socialiste, dans lequel il disait « tout est possible ». Et la réponse qu'il a eue peu de jours après, d'ailleurs, elle n'est pas venue d'abord du Parti socialiste, mais du Parti communiste, de Maurice Thorez, qui a dit « non, camarade, tout n'est pas possible ». Et il faut prendre en compte l'alliance radicale. Les communistes, d'ailleurs, à cette époque-là, étaient très sensibles à maintenir le Parti radical dans l'alliance. Il était très sensible à la question du monde agricole et de ses réactions par rapport au mouvement ouvrier. Donc il était à cette époque plutôt apaisant. Alors qu'à l'autre bout, on avait les pivertistes dans le Parti socialiste et puis les trotskistes, puisqu'il y avait déjà à l'époque une ligue communiste qui avait été créée en 1929, qui était active. D'ailleurs, Trotsky avait passé quelques temps en France en 1935. Il avait laissé derrière lui quelques amis et un petit parti trotskiste, donc, qui, évidemment, était, comme toujours d'ailleurs, pour un débordement hein, de l'expérience qui allait se mettre en œuvre. Mais ces groupes-là n'avaient pas une grande influence parmi les travailleurs, et ce n'est pas l'explication du mouvement qui va se déclencher au mois de mai, dont on ne sait pas très bien d'où il est parti. Enfin, si, on peut situer hein, le mouvement, dire c'est parti dans telle entreprise, en l'occurrence, c'était chez Breguet, au Havre, hein, en Seine-Maritime, chez une grande tradition ouvrière qui est de cette époque-là. Et puis ça s'étend après, ça part dans la métallurgie parisienne. C'est un mouvement qui fait tache d'huile, curieusement, un peu par capillarité, comme ça, autour, où on va avoir les ouvriers, non seulement faire grève, mais occuper les usines. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. Ça avait un peu existé en Angleterre, mais en France, jusqu'à présent, quand les ouvriers faisaient grève, ils restaient chez eux, ou ils se retrouvaient ailleurs, mais ils n'allaient pas à l'usine. L'usine, c'était le lieu du patron. Et quand on était en grève, eh ben, on n'allait pas à l'usine. Et là, étonnement, y compris syndical, y compris politique, dans la gauche, de voir les ouvriers faire grève, des grèves qui partent d'ailleurs sur des motifs légers, entre guillemets. Enfin, c'était pas forcément léger, mais disons que dans d'autres circonstances, ils n'auraient sûrement pas pris cette allure. Par exemple, à Breguet, là, c'est là où c'est parti, deux syndicalistes ont été licenciés parce qu'ils avaient chômé le 1er mai. Ah oui, c'est pas jour férié à cette époque-là, le 1er mai, et régulièrement, d'ailleurs, les syndicats appelaient à une journée de grève pour manifester. Et là, il y a un licenciement, et tout de suite, on a 600 ouvriers qui se mettent en grève pour la réintégration le 11 mai, enfin c'est pas tout de suite, hein, c'est quelques jours après, c'est après les élections d'ailleurs, hein, après l'élection du 4, le mouvement démarre et occupe l'usine. Alors le conflit est vite réglé, hein, l'employeur dit bon, c'est pas grave, je les reprends, on efface tout, on recommence, etc. Mais pas du tout, donc la grève dure pas énormément, mais surtout elle part sur un sujet un peu du même genre chez la Tecoer à Toulouse, donc une usine automobile hein, à l'époque, enfin il fait des moteurs d'avion, je crois, la Tecoer plutôt, hein. Chez Bloch, à Courbevoie, etc. À partir de Courbevoie, ça va disséminer dans toute la ceinture parisienne, le mouvement s'étend. Le Parti communiste a relaté dans l'Humanité le succès des premières grèves, parce que très rapidement, les employeurs ont cédé. Mais c'est une information, ce n'est pas du tout un mot d'ordre que lance le Parti communiste, c'est une information publiée en page 5 d'ailleurs de l'UMA, qui explique que le 24 mai, qui est le jour d'une grande manifestation par ailleurs, au mur des fédérés, ils expliquent les grèves, et ça a circulé, et finalement on a vu le mouvement partir, et cette grève s'imposer finalement dans le pays, pendant tout le mois de mai et juin. Et elle aura beaucoup de mal d'ailleurs à s'interrompre, malgré les souhaits qui vont être très vite, tous ceux qui vont se pencher au chevet de cette grève en expliquant aux ouvriers que peut-être il faudrait avoir de la patience. D'ailleurs, à la radio, juste avant sa prise de fonction, Léon Blum fait un discours en disant aux ouvriers, mais tout ce que j'ai dit, je vais l'appliquer, les lois sont prêtes, elles passent le lendemain, etc. Donc il faut reprendre le travail. Et tous les ouvriers applaudissent, bravo, le programme de... Mais ils ne reprennent pas le travail. Hein. Mais ça continue. C'est Simone Veil, qui, vous savez, pas la Simone Veil qu'on connaît, mais la philosophe qui avait épousé la condition ouvrière, puisqu'à l'époque, elle travaillait en usine, elle a participé à la grève. Elle a écrit, finalement, je crois que c'est une phrase qui résume bien la situation, « Chaque ouvrier, en voyant arriver au pouvoir le Parti socialiste, a eu le sentiment que devant le patron, il n'était plus le plus faible. » Et ça, je pense que c'est certainement la meilleure explication qui a été donnée du pourquoi de ce mouvement. Hein, c'est un sursaut de dignité. L'usine, c'était le patron. Eh bien, à partir de l'élection du Front populaire, c'est plus seulement le patron. Les ouvriers, comme ils prétendent avoir voix au chapitre finalement dans l'ordre politique, avec l'élection des partis ouvriers à la tête de l'État, eh bien, ils prétendent aussi avoir droit dans le social, un droit à faire valoir sur l'usine. Alors, c'est ce qui a provoqué, évidemment, de la part du... Le patronat était totalement tétanisé par ces occupations d'usine, parce qu'il perdait le contrôle de la situation, et en plus, c'était un déni du droit de propriété, que, vous le savez, est sacré dans la République. Il a été consacré... on a failli se le récupérer dans la devise de la République, liberté, égalité, propriété. Ça faisait pas très bien. On a changé au dernier moment, on a mis la fraternité à la place. Mais quand même, la propriété, dans l'ordre républicain, c'est fondamental. Et puis, alors, que dire de l'Église ? Parce que, du côté de l'Église catholique, le droit de propriété est aussi fondamental. D'ailleurs, dans les grèves avec occupation, les syndicalistes chrétiens seront très embêtés. Parce qu'ils sont favorables à la grève, mais ils sont défavorables à l'occupation à cause de ça, à cause du droit de propriété, qui, évidemment, ils décideront quand même de participer aux grèves. Parce que, comme leur problème à cette époque-là, c'est justement le monde ouvrier, ils existent plus parmi les employés, mais ils ont un problème avec les ouvriers, et ils ont rapidement vu que s'ils voulaient se connecter au monde ouvrier, il fallait être là où étaient les ouvriers, c'est-à-dire dans la grève. Donc le 5 juin, le nouveau chef du gouvernement annonce son programme, et son programme est présenté en trois vagues de mesures, des mesures immédiates, un premier train dès le lendemain, les 40 heures, les contrats collectifs, un plan de grands travaux, la création de l'office du blé, pour les campagnes c'était très important, ça permettait de réguler les cours du blé, la prolongation de la scolarité obligatoire, elle était à 13 ans à l'époque, depuis 1882, et elle va être prolongée à 14 ans, ce qui n'est pas fondamental, par une loi d'août 1936. Alors ça, c'est le premier paquet, si vous voulez, de réformes, et puis il y en a un deuxième qui devait se mettre en place, la création d'un fonds national de chômage, un grand projet qui traîne depuis très longtemps, un régime de retraite, enfin, pour les vieux travailleurs, à la place du système incomplet que l'on avait, une assurance contre les calamités agricoles, etc. Et puis aussi, était prévu quand même des mesures structurelles qui seront mises en œuvre, qui étaient la nationalisation des industries de guerre, et aussi la nationalisation de la Banque de France. Curieusement, à l'époque, la Banque de France est dans les mains des 200 familles. C'est une institution, elle le restera d'ailleurs, parce que Blum sera entravé par le Sénat dans sa réforme du statut de la Banque de France, et les banques vont considérablement torpiller le Front populaire en exportant tant qu'elles pourront les capitaux pour déstabiliser le régime. Ça faisait pas mal de choses. Il y aura, après les accords Matignon, d'autres réalisations, mais il faut quand même constater que ce programme n'est finalement qu'un programme de rattrapage social. Ça met la France à jour avec ce qu'on pouvait trouver dans les pays voisins, y compris parfois les pays autoritaires. C'est pas une, dans un langage plus contemporain, on dirait, c'est pas une rupture avec le capitalisme. Même les nationalisations, il y a très peu de nationalisations prévues. Il faut dire qu'à cette époque-là, les nationalisations ne font pas partie des programmes politiques de la gauche. Le Parti communiste est hostile aux nationalisations. Il dit que c'est une installation dans un capitalisme d'État, mais que ce n'est pas le socialisme. Et les socialistes sont aussi très réticents. En fait, les seuls qui avaient porté au début du siècle l'idée de nationalisation, c'est les radicaux. C'est dans le programme du Parti radical qu'on voit émerger l'idée de nationalisation au congrès de 1902-1903 du Parti radical. C'est d'ailleurs dans le programme d'Aristide Briand, ce qu'on a appelé le programme de Saint-Mandé, que Briand avait présenté en 1908, je crois. Et il faisait des nationalisations un point important, rendre à la nation les biens collectifs. Et en fait, le Parti radical dans l'entre-deux-guerres n'en parle plus beaucoup. Ce qui va reprendre, la force qui va reprendre cette idée-là, c'est la CGT. Et Léon Jouot, notamment, qui, avec son programme de nationalisation industrialisée, va développer ce thème et progressivement, Léon Blum est assez défavorable, mais ils vont reprendre l'idée et ils la reprennent, mais vous voyez, pour les industries de guerre. Pourquoi pour les industries de guerre? Parce que ça avait beaucoup choqué la population que les industries d'armement se remplissent les poches de la guerre de 14-18. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui avaient fait fortune, évidemment, dans l'armement. C'est toujours comme ça. Hein. Les guerres, ça tue beaucoup de gens et ça en engraisse pas mal d'autres. Donc ça, c'est un point sur lequel il y avait un accord pour nationaliser les industries de guerre. Ça a d'ailleurs été fait. Alors le premier souci de Blum, outre passer à l'Assemblée, au nouveau Parlement, son programme, qui a été voté dès demain par tout le monde. Très peu d'opposition aux lois sociales du Front populaire. Le premier souci, donc, c'est le rétablissement du travail. Parce qu'il y a un grand souci, y compris économique, de faire redémarrer la production. On savait que les 40 heures, en plus, c'était une diminution. On était à 48 heures avant. Et n'oubliez pas, les 40 heures, c'est 40 heures en 5 jours. À l'époque, on travaille 6 jours, pas tout à fait 6 jours, on est dans beaucoup d'endroits la semaine anglaise, qu'on appelait la semaine anglaise, c'est-à-dire le 5 jours plus le samedi matin. Souvent, d'ailleurs, le samedi après-midi, les ouvriers nettoyaient les usines, les machines, les remettaient en place, on considérait que ce n'était pas du vrai travail, donc on parlait de semaine anglaise. Donc là, c'est 40 heures en 5 jours, donc la seule façon de continuer à produire des richesses, c'était que le travail reprenne très vite, un surcroît de production. On pensait ainsi, d'ailleurs c'était très explicite dans le programme des socialistes sur les 40 heures, c'était pour résorber le chômage, c'était pour créer de l'embauche, et que ça aussi c'est pas une thématique complètement nouvelle. Et donc c'était, ça devenait vital, la reprise du travail. Le mouvement de grève qui s'éternisait était évidemment un grand problème. Alors ça posait une difficulté au gouvernement, sachant que s'il n'y avait pas eu ce mouvement social, il est probable que l'adoption des lois du Front populaire aurait été quand même sans doute beaucoup plus difficile et peut-être beaucoup plus diluée dans le temps. Alors donc le deuxième souci de Blum, c'est que le travail reprenne. Pour ça, il rencontre des gens, il rencontre ceux qu'il connaissait dans le patronat, notamment un certain Lambert Ribot qui était un des dirigeants de l'UIMM. L'UIMM existait déjà, bien sûr, à l'époque, et qu'il avait connu au Conseil d'État. Enfin, bon, l'UIMM a toujours recyclé beaucoup de fonctionnaires, contrairement à la mystique privée-privée, ils ont souvent pris parmi les hauts fonctionnaires. D'ailleurs, le dernier qui s'est fait prendre la main dans le sac et avec les sous, c'est un énarque qui a été pris aussi dans la haute fonction publique. Gauthier Sauvadet. C'est pas du tout un chef d'entreprise, Bon, et donc ça aussi, c'est une très vieille tradition. Donc Blum réunit le patronat, il a le contact plus facile avec les représentants syndicaux, et il convoque le 7 juin, deux jours après sa prise de fonction, une rencontre à Matignon, donc là où il s'installe d'ailleurs, c'est la première fois que le Premier ministre s'installe à Matignon, avec d'un côté 4 représentants du patronat, et de l'autre 5 représentants syndicaux, donc la CGT, la CFTC n'est pas invitée, la CGT, avec trois représentants des anciens confédérés, deux représentants des unitaires, hein, qu'on appelle, bon, pour reprendre la classification des réformistes et des communistes, pour faire vite. Alors, l'obsession des employeurs, c'est l'occupation des usines, c'est la reprise du travail. Donc ils lâchent sur beaucoup de choses, notamment sur les salaires. Les accords Matignon, c'est très simple, hein, c'est 7 articles, c'est pas très long. Et ça se conclut par ce 7e article, qui est l'engagement qu'ont dû prendre les syndicats de demander aux travailleurs de reprendre le travail, dès lors que les directions d'entreprise auront, un, accepté les accords qui ont été signés au niveau confédéral, au niveau national, et traduit à leur niveau, parce que notamment la question des augmentations de salaire devait se régler entreprise par entreprise. La norme, c'était 12%. En gros, dans les entreprises, les salaires doivent augmenter de 12%, avec un éventail entre 7 et 16, pour, en partant des plus bas salaires, qui devaient être remontés vers les plus hauts. Et c'est après la signature de cet accord, qui va être présenté aux travailleurs par les syndicats, par la CGT, et c'est après ça, quelques jours après, le 11 juin, que Maurice Thorez a prononcé cette fameuse phrase « Il faut savoir terminer une grève ». Alors, la phrase est amputée, comme toujours, hein, c'est comme celle de Rocard sur la misère du monde, là, on ne dit jamais la fin. Bon. Là, c'est « dès lors que satisfaction aura été obtenue ». Ah bah oui, quand même, faut pas... Hein, il faut savoir arrêter une grève, mais pas n'importe comment, dès lors que l'on a obtenu satisfaction. Mais apparemment, tout le monde n'obtient pas satisfaction, parce que ce qui est très étrange, c'est que le Parti Socialiste, le ministre de l'Intérieur aussi d'ailleurs, c'est Roger Salengro, qui reste dans l'histoire un peu comme une victime, puisque vous savez qu'il va se suicider quelque temps après, suite à une campagne calomnieuse assez ordurière de l'extrême droite à son égard, donc il sera blanchi de toutes les accusations ridicules, on l'accusait d'avoir déserté pendant la guerre de 14-18, alors que c'était tout le contraire. Enfin bon, mais à cette époque-là, la presse d'extrême droite est d'une dureté inouïe. Enfin, l'extrême droite ne prend pas de gants. Hein. Va là à l'Assemblée nationale, dit le déshonneur de cette Assemblée nationale, c'est finalement d'avoir porté à la tête du gouvernement un juif. Bon, on ne prend pas des gants. Hein, l'extrême droite pratiquée comme ça, c'est pour ça que notre Le Pen est un gentil garçon à côté des gens de cette époque-là. Hein. Enfin, avec plein de guillemets, hein. on est bien d'accord. Hein. Voilà, il faut remettre ça dans le contexte. Donc Salengro, ministre de l'Intérieur, lui par contre, il était partisan d'une reprise musclée du travail, et la police est allée débarquer quelques grévistes récalcitrants. Mais enfin, on voit le 12 juin par exemple, bon, il reste quand même la métallurgie parisienne, c'est pas une petite chose à l'époque, et surtout le 12 juin, un démarrage d'une grève dans les grands magasins. Faut dire d'ailleurs que les femmes n'ont pas passé leur tour, hein, dans la grève, parce qu'il y a les endroits, les usines, armement, automobile, etc., qui ont été très actives, mais les grands magasins, mais le textile, mais tous les endroits où il y a une main-d'œuvre féminine importante ont aussi largement participé au conflit. Et le 7 juillet, donc pas mal de temps après tout ça, Lefranc, dans son grand livre sur l'histoire du Front Populaire, décompte encore, enfin c'est le ministère du Travail, il le rapporte, 1200 établissements occupés, représentant 120 000 travailleurs. C'est pas tout à fait rien. D'autant que, en réalité, le mouvement va s'interrompre un peu quand ? Eh ben, au moment des congés payés. C'est les premiers congés payés. Donc là, effectivement, on part en vacances. Et les vacances ont toujours un effet assez redoutable sur les mouvements sociaux. Mais ça reprend en septembre. Pour la première fois, on peut parler de rentrée sociale, puisqu'il y a eu une pause. Ça reprend en septembre. Et en fait, pendant toute cette période, on va avoir un grand nombre de grèves assez frappantes pour deux raisons. Parce que la CGT a vu partir le mouvement, elle n'a pas du tout appelé à l'intensification du conflit, ni la tendance réformiste, qui n'aspirait qu'à une chose, c'est que les gens reprennent le travail, mais je dirais que c'est un peu dans leur nature, hein, de cette peur du mouvement social. Mais les communistes, pareil, ils n'avaient qu'une hantise, c'est que le mouvement de grève ne paralyse le gouvernement du Front Populaire, ne dresse le parti radical l'amène à une rupture de l'alliance, dresse les campagnes vers les villes, vers Paris, etc. Donc il n'y avait pas du tout, ce mouvement n'a pas été stimulé. Or, à cette époque-là, les ouvriers font grève et les ouvriers investissent les syndicats. Parce que je vous avais dit tout à l'heure, en 1936, après la fusion syndicale, l'addition de la CGT et de la CGTU, c'est-à-dire de l'aveugle et du paralytique, ça ne fait pas un homme très valide. Ce qui va faire du syndicat un acteur très puissant, c'est qu'il va y avoir une ruée vers les syndicats. 4 millions d'adhérents en quelques mois. la CGT va se retrouver avec 4 millions d'adhérents.
Ça fait rêver.
Ça fait rêver.
Ça ne va pas durer très longtemps. Hein. Bon.
Mais enfin, et oui, mais ça, l'histoire syndicale française, c'est ça, c'est des grandes tensions comme ça. Et puis après, ça retombe. Là, ça va retomber très vite, mais ce qui est frappant, c'est que c'est pas une ruée au hasard. C'est les ouvriers non qualifiés qui rentrent dans le syndicalisme. Parce que jusque-là, le syndicalisme, comme souvent d'ailleurs, il est né des ouvriers qualifiés. Il est né des ouvriers de métier, et très longtemps, il a gardé cette caractéristique-là. Et vous savez qu'en plus, en France, la révolution industrielle est lente à se mettre en place, les grandes usines, le taylorisme, c'est une réalité après 1925-26. Et les ouvriers non qualifiés, hein, qui existent à cette époque-là, ne se syndiquent pas, ils vont se syndiquer à l'occasion du Front populaire, dans ce grand mouvement. Mais curieusement, en même temps qu'ils investissent le syndicat, ils investissent un syndicat qui ne les dirige pas dans la grève. Ils vont à la fois investir la CGT et se mettre en grève. Et la CGT elle-même, elle ne fera rien pour que le mouvement de grève s'installe. Au contraire, elle va plutôt plaider pour la reprise du travail. Donc on est dans une situation évidemment assez difficile. Bon, mais vous savez que la dynamique du Front populaire ne dure pas très très longtemps. Dès la rentrée, on commence à avoir des difficultés. Il faut dire aussi quand même... Il y a eu beaucoup de débats, évidemment, à l'époque et après, sur est-ce que ces grèves avaient vraiment un potentiel révolutionnaire, si vous voulez, parce que l'analyse que faisaient quand même les socialistes, les communistes, surtout les communistes, c'était que c'était pas nécessairement un mouvement révolutionnaire. L'aspiration des ouvriers, c'était plutôt un mouvement de dignité hein, qui a poussé ça, comme on l'a dit tout à l'heure. Et au fond, ce que les observateurs, même dans certains romans sociaux, le monde, c'est que les gens n'avaient pas envie de reprendre le boulot parce que ces grèves avec occupation, c'était une gigantesque fête populaire, mais au bon sens. Hein, on a développé une symbolique autour des occupations d'usines. Vous avez dû voir des films d'ailleurs, sur juin 36, il y a un grand film où on voit les balles populaires dans les ateliers, on a mis des lampions sur les machines. Et c'est tout. Alors évidemment, le temps, tous les journaux de droite regardaient, ils ne pensent qu'à s'abreuver, faire la fête, etc. Ce peuple est une conjuration, comme disait Donald. Enfin bref, on a eu droit. Mais en fait, c'était symboliquement une appropriation du lieu où on importait dans l'usine les pratiques de sociabilité populaire. C'était une vraie conquête, quoi. Et je crois qu'après ce moment, la perspective de retourner dans la grisaille du travail quotidien, c'était pas facile. Et retrouver le rapport de subordination avec les patrons qui commençaient à redresser un peu la tête, c'est sans doute beaucoup ça qui a freiné le mouvement de reprise du travail, beaucoup plus que l'idée de s'inscrire dans un régime de soviet, si vous voulez, ou de conseil ouvrier, ou d'aspiration gestionnaire sur l'ensemble de la société. On n'en est pas tout à fait là. Il y aura des grèves de ce type-là en 44, 45, au moment de la libération, qui aspirent à la gestion. Qui seront elles aussi d'ailleurs un peu mises sur l'éteignoir par les grandes forces politiques, mais en 36 c'est pas véritablement ça. Alors la suite est un peu moins glorieuse, hein. Le patronat par exemple se débarrasse dans les 6 semaines qui ont suivi de toute la direction qui avait signé les accords Matignon. Il y a eu une révolution de palais à l'intérieur de la CGPF, vous savez, ça ressemble un peu à l'arrivée de Seyer là, en 98. On chasse les anciens, on débaptise l'organisation, etc. Bon. La réforme du statut de la Banque de France s'enlise. Vincent Auriol, qui est ministre des Finances, qui sera président de la République après-guerre, mais là il est ministre des Finances, il évoque la fuite des capitaux. Et qui pose des problèmes évidemment d'équilibre budgétaire. Je crois qu'en juin, ils ont 6 semaines de trésorerie. L'État a 6 semaines de trésorerie. Alors on lance un emprunt, etc. Mais la situation économique va devenir extraordinairement difficile. Il y a une dévaluation qui est faite, mais elle est faite un peu tard, elle est insuffisante, etc. Donc les prix augmentent, les grèves aussi d'ailleurs, et puis la droite utilise de plus en plus le Sénat, évidemment, pour bloquer tout ce qui est dépenses sociales. Pendant que les grandes banques organisent la fuite des capitaux, 20 milliards de francs or, c'est pas rien, hein, dans le budget de l'époque, aurait pris... D'ailleurs, c'est curieux parce que Vincent Auriol, il était pressenti comme ministre, mais avant, il avait dit ou écrit, je ne sais plus, mais il avait dit « Oh, c'est simple, les banques, je les ferme, les banquiers, je les enferme. » Malgré tout, on pourrait réexhumer d'ailleurs ces belles idées du temps jadis. Le problème, c'est qu'il ne l'a pas fait alors qu'il était ministre et que c'est plutôt les banques qui ont enfermé le gouvernement de Front populaire, hein, qui l'ont pris en otage et en étau. Et il faut dire qu'à cette époque-là, la gestion de l'économie, elle emprunte encore au grand canon de l'orthodoxie de la Troisième République. Keynes, les premiers écrits de Keynes sont traduits en France en 1937. Mais Blum ne les connaît pas, par exemple. C'est Boris qui lui en parle, mais il ne s'en inspire pas. Cette idée, par exemple, qu'apporte Keynes et qui va être mise à profit aux États-Unis très vite, qui est que, peu importe le budget, l'État peut déséquilibrer son budget dès lors qu'il induit une dynamique dans l'économie. De toute façon, l'argent reviendra. Il reviendra par les taxes, reviendra par l'imposition, etc. Tout ça reviendra. Et donc, la fameuse, ce qu'on appelle la gestion keynésienne du déficit budgétaire, c'est pas connu à l'époque. C'est pas pratiqué du tout. Et le Front populaire ne se dégage pas des conceptions qui étaient celles de Tardieu, de Laval avant-guerre, qui ont provoqué la déflation, qui était un espèce de malthusianisme économique que le keynésianisme va bouleverser. Mais en France, ce sont des pratiques que l'on va apprendre plus tard et qui seront mises en œuvre en réalité qu'après-guerre. Alors qu'en Angleterre, évidemment, enfin, les Anglais parlent anglais et Keynes écrivait en anglais. Donc ça a été mis en œuvre beaucoup plus tôt en Angleterre qu'en France. Après, bon, la situation se tend également sur le plan politique. Vous savez qu'en juillet, ce qui va commencer à peser lourd, c'est l'affaire de la guerre d'Espagne. Puisque il y a un grand débat, il y a aussi un régime républicain en Espagne, mais il y a un soulèvement des généraux, aidé par la Falange, etc. Et donc cette guerre qui commence, avec un débat qui partage la France, la gauche notamment, qui est « doit-on aider les républicains espagnols ?» Ou pas. Alors, il y a ceux qui pensent que, en plus, l'aide des Italiens et de l'Allemagne était visible, et que donc c'était le premier terrain de la guerre mondiale qui s'annonçait, que donc il ne fallait pas déserter ce terrain, il fallait que la France aide l'Espagne, aide la République espagnole. Et puis ceux qui refusaient, l'Angleterre, c'était un point fort de la diplomatie britannique de ne pas vouloir intervenir, et le Parti socialiste a été divisé là-dessus, et Léon Blum, le cœur déchiré, disait-il, décidait la non-intervention en Espagne. Mais ça a créé des tensions extrêmement fortes. Le Parti communiste était favorable à une intervention en Espagne. C'est là que se sont mis en place d'ailleurs les brigades internationales. Il n'y avait pas seulement les communistes, bien sûr, mais tout un des courants de gauche qui sont allés aider pratiquement la République espagnole. Et puis le gouvernement de Front populaire aussi a fait passer des armes. Mais enfin, c'était autre chose que l'aide massive qu'avait apportée l'aviation allemande et les troupes italiennes aux insurgés. Donc le débat sur la guerre d'Espagne gâte la situation politique. C'est un premier pas. Le Parti communiste, du coup, qui n'a pas accepté d'avoir des ministres, il soutient, il soutenait le régime de Front populaire, mais il n'a pas voulu de la participation ministérielle. Ils ont dit que nous occupons le gouvernement de la rue, le gouvernement des masses, ils disaient. Mais à l'Assemblée, non. Donc le Parti communiste n'est pas au gouvernement, mais il soutient évidemment le gouvernement de Front populaire. Mais à partir du mois de juillet-août, on sent bien que, parce qu'il y a les grèves, du coup il est un petit peu pris entre deux feux, parce qu'il y a cette affaire de la guerre d'Espagne, le Parti communiste décroche un petit peu, encore qu'il a été loyal jusqu'à la fin. Mais bon, loyal, mais sans soutien, sans y mettre vraiment le paquet. Donc une espèce de dislocation interne du Front populaire, et c'est une agonie qui dure en gros 18 mois, puisque fin juin 37, donc après un an d'exercice, le gouvernement Blum démissionne. C'est Chotan qui prend la suite. Chotan est un radical, et les socialistes décident de participer. D'ailleurs, les communistes, curieusement, étaient prêts aussi à participer. C'est Chotan, dit-on, qui n'a pas voulu. Alors, le ministère Chotan ne va pas tenir très longtemps, mais de toute façon, le Front populaire se dissocie très nettement. Les grèves se multiplient sur les salaires, puisque les prix ont augmenté, mais les salaires n'ont pas suivi. Et d'ailleurs, les augmentations de salaires des grèves de juin ont été très rapidement regagnées par l'augmentation des prix, et donc une certaine amertume des salariés. La production industrielle ne décolle pas du tout. Elle reste en dessous de ce qu'elle était en 1929, alors que tous les autres pays ont nettement dépassé ce seuil. Bon, il y a des tas de combinaisons ministérielles qui vont se mettre en place à partir du début de l'année 38. Et d'ailleurs, les socialistes vont quitter eux aussi le gouvernement. Et donc, on a un gouvernement, c'est le gouvernement Daladier, qui arrive aux affaires à la mi-38. Et là, disons que novembre 38 signe la fin du Front populaire. De deux manières. D'abord parce que dans le comité de rassemblement populaire qui se réunit au début du mois, le Parti radical annonce qu'il se retire du rassemblement populaire. Bon, ça, on avait vu, mais c'est surtout l'annonce des décrets-lois du 11 ou 12 novembre qui va provoquer la rupture. Alors, les décrets-lois, Paul Reynaud, Daladier, c'est Reynaud qui est ministre des Finances, Paul Reynaud, qui n'était pas franchement un homme du Front Populaire, hein, qui avait dénoncé la semaine des deux dimanches et des 5x8. Et donc, les décrets-lois remettent en cause les 40 heures, repassent la durée du travail à 48 heures, le travail sur 6 jours, incitent aux heures supplémentaires, etc. Sans doute un prémisse du travailler plus pour...
Pour trouver l'aide.
Voilà. Et évidemment, la CGT ne peut pas laisser passer les décrets de 36 comme ça, les décrets de 38, pardon, les décrets-lois de Reynaud, enfin Reynaud-Daladier, comme on les appelle, et elle est réunie en congrès à Nantes, et elle décide une journée de grève générale, interprofessionnelle, pour s'opposer le 30 novembre à cette loi, à ces décrets-lois. Et là, c'est perçu par Reynaud et par Daladier comme un enjeu extrêmement fort, un peu, si vous voulez, comme la grève des mineurs pour Mme Thatcher, c'est-à-dire il importe politiquement de briser cette grève. C'est dit comme ça, Reynaud l'a laissé d'ailleurs dans ses écrits. Il était vital de briser la grève du 30 novembre. Et ils mettront d'ailleurs les moyens qu'il faut, hein, des moyens de pression énormes. La grève va être un échec, elle ne sera pas reconduite le lendemain. 15 000 militants sont licenciés pour fait de grève. Et on a, et d'une certaine manière, la CGT ne se relèvera pas de cet échec. Et c'est du 30 novembre que le grand départ du syndicat va s'organiser. Les salariés, les ouvriers vont profondément démobiliser, rendus très amers par tout ça, quitter massivement le syndicat. C'est vraiment, le 30 novembre, la fin du Front Populaire et la fin d'un moment de puissance pour le syndicat aussi. Alors, j'insiste pas, ça nous entraînerait loin, sur le bilan hein, du Front Populaire, le bilan économique et social. Il n'est pas mauvais, bien sûr, il reste la loi des 40 heures, elle est remise en cause, certes, mais elle va rester très longtemps la référence. À ça, il y a quand même la loi sur les conventions collectives qui, elle, pourra pas non plus beaucoup se déployer parce qu'après 38, de toute façon, tout est un peu remisé. Mais enfin, tout de même, on a une deuxième loi sur les conventions collectives. Bon, il en faudra une troisième hein, pour que ça marche. Mais enfin, la deuxième va apporter un peu l'outillage juridique qui va permettre en 1950 de reprendre le dispositif. Et puis surtout, c'était pas dans le programme du Front Populaire, mais ça a été accepté dans la négociation de Matignon, l'instauration des délégués du personnel. Alors, petite histoire sur les délégués du personnel. Les délégués du personnel avaient existé pendant la guerre de 14 dans les usines d'armement, au moment où Albert Thomas, qui était un socialiste, modéré mais un socialiste, était ministre de l'armement entre 1914 et 1917. Et à cette époque, il avait instauré de son propre chef, avec l'accord du président du Conseil, mais enfin, des délégués ouvriers dans les usines d'armement, parce qu'évidemment, il était impératif qu'il n'y ait pas de grève dans les usines qui étaient orientées vers la production d'armes. Et les délégués étaient là pour faire l'interface entre les problèmes. Plutôt que ça se traduise en débrayage, il valait mieux que ceux qui avaient un problème allaient voir le délégué qui lui-même réglait le problème dans la journée. C'est comme ça que ça se passait. Il n'y a pas qu'en France, en Allemagne, que Albert Thomas connaissait très bien, il y avait ce système-là dans toutes les entreprises, pas seulement dans les entreprises d'armement. Mais en 1918, vous savez qu'en Allemagne, il y a eu des grands soulèvements, là révolutionnaires pour le coup. Dès la fin de 1917, mais en 1918, il y a les soviets qui s'installent dans les entreprises. Les syndicats, que les syndicats sociaux-démocrates ne pilotent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Au contraire, ils vont aider d'ailleurs à la répression du mouvement spartakiste, hein, qui était la gauche. Plus tard, ça deviendra les communistes, mais à cette époque-là, en 1919, c'est pas encore l'étiquette communiste, c'est une gauche radicale socialiste. Et donc, face à ce mouvement qui monte et qui inspire des craintes, la Russie n'est pas très loin, la révolution russe a encore un effet dynamique, il y a un accord qui est passé entre le patronat et les syndicats sociaux-démocrates, à travers lesquels on va instaurer dans les entreprises allemandes ce qu'on connaît aujourd'hui comme la codétermination, la cogestion, donc les conseils d'entreprise. On utilise d'ailleurs le mot conseil pour court-circuiter un peu l'appellation de conseil ouvrier hein, qui est utilisée par les révolutionnaires. Mais surtout, on pérennise les délégués ouvriers. Donc les délégués du personnel en Allemagne, c'est même pas la République de Weimar, parce qu'elle n'est pas encore proclamée, c'est un accord entre patronat et syndicat de 1918, qui va être repris hein, dans les textes de loi de la République de Weimar. Et en France, en 1919, Jouot prend appui sur cet exemple pour demander non seulement la pérennisation des délégués ouvriers dans les usines d'armement, mais l'extension des délégués ouvriers partout. Eh bien, c'est refusé. Le patronat n'en veut pas entendre parler d'une aberration comme ça. Et le gouvernement, bon, ma foi, c'est le gouvernement de la chambre Bleu Horizon, la plus à droite que la France ait connue, dit-on, jusqu'à la dernière, puisque c'est toujours comme ça, c'est toujours jusqu'à la dernière. C'est pas cette chambre-là qui allait évidemment prendre l'initiative d'embarrasser le patronat. Donc ça, les délégués du personnel, ça arrive en 36. Enfin, ce que les autres ont eu par la négociation, il a fallu en France une grève générale pour y parvenir. Donc c'est quand même un acquis du Front Populaire, hein. Même si le patronat a obtenu qu'il soit élu. Pour la CGT, les délégués du personnel devaient être désignés par le syndicat. Le patronat voulait qu'il soit élu. Il comptait d'ailleurs jouer un peu sur les élus pour contourner le syndicat. Ça n'a pas vraiment marché comme ça, mais en tout cas, il y a eu un accord pour ce son, pour que ça se conclue comme ça. Donc il y a des acquis, hein, mais le Front Populaire ne se proposait pas la révolution sociale. Hein. Il a simplement opéré un début de remise à niveau, d'installation, disons, d'un statut social des ouvriers dans la nation. Ma foi, c'était déjà pas si mal. Alors, revenons un petit peu, parce que ça va être important sous Vichy, à cette année 38. Arrêtons-nous un peu sur cette année 38. Je disais que la CGT était en congrès lorsque l'annonce des décrets-lois est tombée. C'est en congrès qu'elle a décidé de sa réaction. C'est un congrès où on n'a pas parlé que de ça. On a beaucoup parlé aussi, comme on parlait dans tout le pays, de politique internationale, de l'attitude face à la guerre, la menace de guerre. Enfin, en 38, ça commençait tout de même à sentir un peu la tension, disons. Et les débats qui ont traversé la CGT à cette époque-là sont assez importants parce qu'ils préfigurent un peu ce qui va se passer au moment de l'installation des gouvernements du maréchal Pétain. Ce qui est important, c'est les fameux accords de Munich. Vous savez que les accords de Munich ont été signés entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne le 30 septembre 1938 face à la menace d'Hitler d'envahir la Tchécoslovaquie. Enfin, il avait commencé par occuper la région des Sudètes, hein, qui est une région périphérique de la Tchécoslovaquie, dans laquelle il y avait beaucoup d'Allemands d'ailleurs, qui disaient qu'ils étaient maltraités par les Tchèques et que donc ça créait un droit d'intervention de l'Allemagne auprès de ses ressortissants. Donc face à ce coup de force, la question est posée, doit-on accepter ou doit-on, puisqu'il y avait en plus un accord entre la France, un accord bilatéral entre la France et la Tchécoslovaquie, où la France avait annoncé son intervention immédiate au cas où la Tchécoslovaquie serait menacée. Et là, la France va assez pitoyablement laisser tomber son allié, qui sera vécu avec une grande amertume par les Tchèques et Slovaques, et avec un grand débat en France et un grand clivage dans l'opinion publique partout entre ceux qu'on appellera les munichois et les anti-munichois. Ça devient une catégorie, si vous voulez, ça a eu autant d'importance que le traité constitutionnel dans les conversations familiales. Hein. On était munichois ou anti-munichois, comme on était pour le TCE ou contre le TCE, c'était assez fondamental. Évidemment, dans le syndicat, dans la CGT, ça a été aussi un débat. Et la CGT, à cette époque-là, on a vu deux camps assez nets hein, se discerner entre eux, ce qu'on va appeler les pacifistes, voire pacifistes intégraux, et puis les anti-munichois. Alors, les anti-munichois, ils ne sont pas bellicistes, hein, mais ils étaient hostiles aux accords de Munich. Pour les pacifistes, tout était préférable à la guerre, hein, y compris la capitulation devant Hitler. Bon, alors, on sait qu'ils ont eu et la capitulation et la guerre, hein, mais bon... Ça, on le sait après, en tout cas. Il faut bien comprendre aussi sur quoi s'appuyer hein, ce courant pacifiste. Il était très présent, d'ailleurs, dans le monde des instituteurs. Le syndicat national des instituteurs a été grand pourvoyeur de ces pacifistes. C'est la trace de la guerre de 14. Il y a encore beaucoup de gens à cette époque-là qui ont connu la guerre de 14-18. Enfin, ceux qui en ont réchappé, ou ceux qui, dans leur famille, avaient été atteints par la guerre de 14. Et il y a un sentiment... plus jamais ça, qui était extraordinairement fort hein, face aux horreurs de la guerre de 14. Donc ce sentiment pacifiste, il est très très ancré il dicte des comportements politiques qui évidemment après coup nous paraissent un peu étranges, mais qui, bon, je pense, font sens hein, par rapport à cette période-là. Et à ce congrès de Nantes que j'ai évoqué, donc on parle à la fois, il va y avoir des débats, des résolutions, de cette politique internationale, sur Munich et sur les décrets Reynaud. Et là, en fait, ce n'est pas deux camps qui vont se dessiner, c'est trois. Le premier camp, c'est celui des unitaires. Les unitaires, c'est les communistes, c'est les anciens de la CGTU, qu'on a continué très longtemps à appeler les unitaires. Eux, évidemment, ils sont très anti-munichois, ils sont partisans d'une entente avec l'Union soviétique. C'est pas une surprise, mais en même temps, c'est une option diplomatique très forte de cette alliance pour prendre en tenaille hein, l'Allemagne. C'est le vieux problème de l'encerclement hein, qui avait été déjà à l'origine de la guerre de 14, enfin, du point de vue des Allemands. Et d'ailleurs, il y avait un pacte franco-soviétique qui avait été signé en 1935 par Laval. Donc il y avait cette stratégie-là d'alliance avec l'Union soviétique, était une option diplomatique tout à fait sérieuse, que d'ailleurs Staline a longtemps évoquée en disant qu'il avait fait plus que des offres, et d'ailleurs Paul Reynaud dans ses mémoires l'atteste, il y avait eu plus que des offres de l'Union soviétique, d'alliance, et que c'est parce qu'elle a été écartée, notamment par les Anglais, mais aussi par la France, finalement, que Staline s'était tourné vers Hitler, hein, le fameux pacte germano-soviétique qui va faire pas mal de dégâts dans le syndicat. Enfin, entre autres, dégâts. Mais donc, à cette époque-là, les communistes sont anti-munichois, ils sont partisans de l'alliance avec l'Union soviétique, et ils sont rejoints sur cette position par les confédérés autour de Léon Jouot. Léon Jouot avait été très favorable à l'intervention en Espagne. Il était très anti-munichois. Il pensait. Jouot a toujours été passionné par les questions internationales. D'ailleurs, il représentait la France à la SDN. Il était dans la délégation de la France à la Société des Nations. Il était au PIT. Enfin, c'est un homme qui avait un grand rayonnement international et une certaine perception des questions internationales. Il était aussi favorable, il l'avait fait admettre d'ailleurs dans le camp syndical, dans la Fédération syndicale internationale. Il était favorable à une alliance avec l'Union soviétique. Et donc, les confédérés s'étaient partagés. Il y avait un courant anti-munichois et un courant pacifiste, très important, qui faisait à peu près le tiers, d'ailleurs dans les votes, il a fait à peu près le tiers du congrès de la CGT, et il s'était organisé autour d'une tendance qui s'appelait syndicat, au pluriel. Bon, il y avait des journaux de tendance à l'époque dans la CGT, parce qu'au moment de la fusion, les différents courants de pensée, comme on disait, avaient gardé leurs organes. Alors, il y avait syndicat, c'était créé, mais c'était surtout la VO qui était restée, la vie ouvrière, qui était l'organe de tendance du courant unitaire. Hein, c'était le journal de la CGTU, donc la vie ouvrière. Et il y avait un autre journal de tendance qui avait une certaine importance, qui s'appelait la Révolution prolétarienne, et qui était animé par des anciens, enfin, ou actuels à l'époque, syndicalistes révolutionnaires. On y trouvait Louzon, Pierre Monat, pour ceux qui connaissent un peu cette histoire, Maurice Chambellan. Qui entretiennent la sensibilité syndicaliste révolutionnaire et qui eux-mêmes d'ailleurs étaient très pacifistes. On va d'ailleurs en retrouver à Vichy de ces gens-là. Mais donc on a trois grands courants, hein, et notamment cette tendance de syndicat. La tendance syndicat, elle était très pacifiste, et puis aussi, il faut dire, elle était très anticommuniste. Très, très anticommuniste. Les deux allaient un peu de pair, c'est-à-dire qu'ils étaient hostiles à l'alliance franco-soviétique, or c'était quand même la seule option diplomatique qui était consistante face au danger nazi. Donc cette tendance syndicale, donc inscrite hein, dans la tradition pacifiste, est très hostile, d'ailleurs à la fusion syndicale, très hostile au courant communiste. Bon, son chef, c'est René Belin. Belin était dirigeant de la Fédération des PTT. Hein, c'était un pacifiste aussi, avec André Delmas du syndicat des instituteurs. Enfin, ce sont des figures connues dans l'histoire syndicale. Elle compte aussi des gens, alors là, qui étaient beaucoup plus anticommunistes que pacifistes, comme Dumoulin, Georges Dumoulin, qui a été un grand leader syndical dans le nord de la France. Il était secrétaire de l'Union départementale du Nord. Il venait du syndicalisme révolutionnaire. Il avait été après proche de Jouot, et on verra que lui va finir au RNP de Marcel Déa. Il va avoir une dérive tout à fait fasciste, bon, assez minoritaire dans le monde syndical, mais enfin, lui, ça a été un bon hein, dans le genre. Alors, ce congrès donc montre un peu les divisions, et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce qu'en fait, on va retrouver ce clivage au moment de la guerre, au moment du choix, face au maréchal Pétain, face au régime, à l'État français. Il y a un autre événement international qu'il faut mentionner, il intervient juste avant la guerre, j'en ai dit un mot déjà, c'est le pacte germano-soviétique, puisque il va embarrasser les communistes français. qui jusque-là avaient défendu tout à fait le contraire. Ils avaient défendu, au contraire, ils étaient très antifascistes. Hein. Et là, tout d'un coup, l'Union soviétique leur impose un acte qui finalement les neutralise, puisqu'ils vont être contraints d'ailleurs, au début de la guerre, le Parti communiste va dire que cette guerre ne le concerne pas, que c'est une guerre entre impérialisme. Hein, il va défendre pendant quelque temps ce qu'on va appeler le défaitisme révolutionnaire, hein, d'une certaine manière, et là, il est très neutre. Alors quand je dis le Parti communiste, pas les communistes, parce qu'il y a des communistes qui vont quand même entrer en résistance malgré la position du parti, et notamment les communistes syndicalistes vont être plus nombreux que les autres à rentrer assez tôt dans la résistance. Mais en tout cas, le pacte germano-soviétique va à nouveau fracturer l'opinion publique et fracturer la CGT, parce que bon, au début, les communistes disent que c'est une ruse tactique de Staline pour passer le temps, avoir le temps de s'armer, etc. Bon, très bien, sauf que lorsque le 17 juillet, l'Union soviétique rentre en Pologne et prend sa part, puisque vous savez que le fond de l'affaire, c'était quand même le partage de la Pologne. Alors Hitler, il a fait très vite. Des signatures du pacte germano-soviétique, il s'engage, c'était le 23 août, hein, dans les jours qui suivent, les troupes allemandes rentrent en Pologne, s'approprient toute la partie dite de Prusse orientale, et quelques jours après, Staline vient ramasser le reste. Donc là, on ne peut plus dire que c'est un arrangement tactique. On voit bien que derrière, il y a des intérêts bien compris, et quand l'Union soviétique attaque la Finlande, peu de temps après, on voit bien qu'il y a quand même un partage du gâteau qui s'est fait sur le dos de ces États intermédiaires. Donc là, il y a un décret de dissolution du Parti communiste qui est pris, les députés sont exclus de la Chambre, et dans le syndicat, les responsables communistes sont, pas seulement les responsables, tous les militants sont sommés de désavouer le pacte germano-soviétique et de le faire par écrit. S'ils ne font pas, ils sont mis dehors. Alors certains le feront d'ailleurs, qui vont quitter le Parti communiste à cette époque-là, pour cette raison, d'autres ne le feront pas. Et donc, de fait, on réédite une exclusion des éléments communistes. Bon, là, c'est à quelques jours du déclenchement de la guerre. Donc, tout de même, la CGT rentre dans la guerre en état de scission. Alors, vous savez que la guerre, c'est deux étapes. Il y a d'abord cette drôle de guerre qui dure 9 morts, on l'a appelée comme ça, avant l'invasion éclair du pays, en juin 40. Mais en tout cas, pendant de septembre à juin, on a cette espèce de situation où les troupes campent dans la ligne Maginot. Pendant ce temps-là, les Allemands ne sont pas restés totalement inertes puisqu'ils envahissent le Hollande, le Danemark, la Norvège, etc. Mais enfin, en France, on attend bien au chaud derrière notre ligne Maginot, là. Je ne vais pas raconter la guerre, parce que ça serait une grande histoire. Mais on a une situation un peu particulière, tout est suspendu. Et notamment sur le plan social, la CGT va accepter de signer avec le patronat ce qu'on a appelé les accords majestiques. C'est du nom du Grand Hôtel à Paris où ça a été fait, 7 octobre 1939. C'est un engagement, si vous voulez, qui ressemble assez à l'engagement dans l'Union sacrée. C'est-à-dire que c'est un accord entre la CGPF, la Confédération Générale du Patronat Français, et la CGT, et aussi le syndicat chrétien, la CFTC, c'est un engagement à participer à l'effort de guerre, à accepter les sacrifices, à faire une pause dans les grèves, et à participer. Le texte évoque même une communauté française du travail. La CGT va aller assez loin, d'ailleurs, dans ces mois-là. C'est le courant confédéré qui pilote ça, enfin, confédéré. Et la tendance syndicat, puisque les communistes sont exclus, on parle de collaboration franche et loyale, orientée vers la production et l'effort de guerre. Bon. La CGT va même modifier ses statuts. Elle va sortir la lutte des classes de ses statuts. Alors, il y aura un petit correctif qui sera pris, d'ailleurs, quelques semaines après, en disant on est peut-être allé trop loin dans les concessions. On devrait... on est lancé dans... Et puis après arrive... mai 40, l'invasion du pays, en quelques semaines, comme vous savez, l'État français est proclamé le 11 juillet par le maréchal Pétain, qui a reçu la veille les pleins pouvoirs de l'Assemblée, donc par cette Assemblée de 36, élue en 36, amputée de ses députés communistes, et auxquels seuls se sont opposés un groupe de 80 députés, principalement socialistes et radicaux, qui ont refusé d'accorder les pleins pouvoirs, les autres l'ont fait. La situation de la population devient assez vite dramatique. À la fois les prélèvements allemands qui vont être très rapidement très important, 40% des produits d'industrie vont très rapidement être captés au profit de l'Allemagne. Il y a un blocus britannique immédiat. Et pourquoi les Britanniques auraient-ils fourni à la France les biens dont elle avait besoin alors qu'ils étaient systématiquement drainés vers l'Allemagne? Et bon, après 1941-1942, il va y avoir les bombardements alliés qui vont prendre sur la France et qui vont effectivement créer des dommages importants. Bon, il y a eu l'épisode de l'Exode, il y a eu quand même 100 000 morts dans la campagne militaire. On a beau dire que la France, ils ont été balayés, ils se sont défendus quand même. Bon, 100 000 morts, 2 millions de prisonniers, plus grand chose à manger, etc. La situation des Français était préoccupante. Et pendant 4 ans, évidemment, le souci premier de tout le monde, c'est la survie dans un contexte de sous-alimentation permanent et d'un froid aussi. Bon, question du chauffage... Surtout que les hivers ont été froids en plus à cette période, donc tout s'est mêlé pour créer une situation où l'attention des gens était portée vers les impératifs de survie. La question politique passe relativement au second plan dans ces moments-là. D'autant qu'il y a eu une inflation assez importante, les salaires ont été bloqués, c'est un des premiers. Dès septembre 1939, on a bloqué les salaires, on a gelé les conventions collectives, on les a cristallisées. C'était une jolie formule. Donc on a gelé les salaires et cristallisé les conventions collectives et on a aussi suspendu le mandat des délégués du personnel. Ils venaient à peine d'être instaurés que déjà on les suspendait. Ils n'ont pas été supprimés, mais leur mandat a été suspendu. Mais bon, officiellement les prix ont été multipliés par 3 très vite, mais on sait très bien qu'avec le rationnement, ça entraîne la fraude, le marché noir, etc. Et que tout le monde avait des problèmes pour boucler son budget. Alors sur le plan politique, bon, le régime du maréchal Pétain s'affirme assez vite comme un régime autoritaire, une dictature, les libertés publiques sont toutes suspendues, plus de droits d'association, de réunion, la liberté de la presse est étouffée, tout ça est suspendu, évidemment, pour la plus grande joie de l'extrême droite, pour qui Vichy est la divine surprise, ça a été dit, ils se retrouvent dans un régime qui comble enfin leur attente. Le Parti populaire français de Doriot exalte déjà la nécessaire collaboration avec l'Allemagne, et eux vont sombrer assez vite dans l'adhésion au national-socialisme, mais en 40, on n'en est pas tout à fait là. Au départ, c'est quand même un régime qui s'installe sur l'idée de l'armistice. Je donne mon corps à la France, etc. Bon, Pétain joue un rôle un peu ambigu pendant quelques temps, puisqu'il se présente comme mettant fin à la guerre, et donc tentant de trouver, de faire respecter la France par l'Allemagne, etc. Bon, on va voir, évidemment, au fil du temps, que tout ça est une illusion. Bon, ça c'est l'évolution politique de Vichy, donc vous savez que ça alimente encore des débats. Peut-on parler d'une politique sociale du maréchal Pétain, si on veut rester un petit peu dans nos problématiques? Alors, il a un projet qui est un peu confus, bon, il a un discours qui mêle le paternalisme et la nostalgie de la ruralité perdue, la France, la terre qui ne ment pas, etc. Enfin bon, ce discours assez travail, famille, patrie, enfin l'édifice de discours de cette époque-là, qui est réactionnaire au sens premier du terme, qui est vraiment le retour en arrière à une France perdue, parce que bon, la France s'est urbanisée, etc., mais donc une espèce d'idée de retour nostalgique sur ce passé. En réalité, quand on regarde bien ce qu'a été Vichy, les historiens disent que ça a condensé des groupes, des clans, des familles de pensée qui avaient au fond... C'était l'auberge espagnole, quoi. Chacun y arrivait avec ce qu'il voulait bien y mettre. Enfin, dans un certain cadre, qui était celui d'un régime dictatorial et d'extrême droite. Mais l'idée, malgré tout, là où on peut dire qu'il y a une idée sociale, entre guillemets, c'est celle du corporatisme. Alors le corporatisme, c'est le système, alors pas tout à fait le système allemand, parce que l'Arbeitfront en Allemagne était une véritable caricature de militarisation des relations sociales, mais ça ressemblait un peu au système italien, au corporatisme d'État de Mussolini, et surtout d'ailleurs, ils se sont plutôt inspirés de celui de Salazar au Portugal. Mais c'est quoi le corporatisme? C'est cette idée que on met ensemble, dans des structures verticales, les représentants des patrons, les représentants des ouvriers, et aussi ceux de l'État. C'est toujours du corporatisme qui est encadré par l'État. C'est la différence avec les corporations de l'Ancien Régime. On parle de corporations toujours par référence à ces vieilles corporations médiévales qui regroupaient en leur sein les employeurs et les employés. Simplement, ils avaient, là où l'État intervenait, c'était des jurandes, c'est-à-dire que c'était des concessions Hein, on appellerait ça aujourd'hui, comme pour les notaires, comme on appelle ça
des
conseils des charges. Voilà. Hein, ce sont des charges, les jurandes. Ce sont des charges accordées par l'État, mais la corporation s'organise dans son coin. Elle se débrouille. Dans les corporatismes du XXe siècle, des régimes fascistes, c'est un corporatisme sous la houlette de l'État. C'est l'État qui est organisateur. Alors le patronat, là-dedans, lui, il a vu deux choses dans Vichy. Un, l'étranglement des syndicats ouvriers. Ça, c'était du petit lait. Mais en même temps, l'étatisme. Hein, c'est-à-dire que l'État venait se mêler. Alors, le patronat reconnaissait qu'il fallait que l'État s'occupe de l'organisation avec le blocus d'un côté et les prélèvements de l'Allemagne de l'autre. Ça passait inévitablement par la puissance publique. Mais quand on regarde l'attitude des organisations patronales, qui, elles, sont toutes allées à Vichy, alors là, on n'en trouve pas une qui n'y soit pas allée. Alors, pas forcément avec une adhésion idéologique totale au régime. Ils n'avaient pas trop le choix non plus, parce que les comités d'organisation dans lesquels les organisations patronales ont été absorbées, c'est elles qui répartissaient les matières premières, les marchés, et aussi les marchés avec l'Allemagne. Parce que l'Allemagne passait des commandes aux industriels français, notamment dans le BTP, dans la mécanique, les moteurs d'avion, etc. Donc, les employeurs, l'automobile aussi, hein, le comité d'organisation de l'automobile, évidemment, les Allemands ont prélevé, ils ont demandé des reconversions pour fabriquer des moteurs pour la défense, pour des engins de l'armée, etc. Donc, évidemment, ceux qui voulaient faire du business, on dirait aujourd'hui, il fallait qu'ils soient dans les comités d'organisation. Après, ce que les patrons individuellement pensaient du régime, c'est une autre histoire. Hein. Mais en tout cas, en tant qu'organisation, les organisations patronales sont allées à Vichy, elles se sont accommodées, disons, de ce corporatisme. D'autant que dans les comités d'organisation, il n'y avait pas les représentants des ouvriers. Hein. C'était les technocrates du gouvernement et les représentants des employeurs. Mais là où on peut dire politique sociale, c'est que l'idée, c'était d'intégrer les représentants des travailleurs dans des structures. Donc pas uniquement les rayés de la carte, hein, mais les intégrer dans des structures dans lesquelles ils auraient leur mot à dire, parmi d'autres. Hein, et ça serait arbitré par l'État. Alors, bon, on peut appeler ça un projet social, parce que ça avait à voir avec les conditions de vie, d'intervention des ouvriers. C'était pas très social malgré tout, hein, mais enfin, en tout cas, il y avait une certaine conception de la relation sociale qui devait passer à travers ce système corporatiste. Alors, un des premiers actes du gouvernement de Vichy, ça a été de suspendre les confédérations syndicales et patronales. C'est un décret de novembre 40, décret Bichelonne, mais qui a été signé par le ministre du Travail de l'époque, qui a suspendu les confédérations syndicales. Alors, un, le ministre du Travail en question, c'est qui ? C'est René Belin, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un dirigeant de la CGT. La tendance syndicat, qui avait manifesté son pacifisme, est passée avec armes et bagages du côté du maréchal. Alors, pas de la collaboration avec l'Allemagne, hein, mais du côté du maréchal. Vous savez que c'est des nuances qu'on va apprendre à utiliser. On est maréchaliste, on n'est pas collaborateur. C'est pas la même chose. On collabore à Vichy, mais pas avec l'Allemagne. Enfin bon, il y a tout un tas de nuances. C'est vrai qu'avec le recul, on peut dire que tout ça... Mais à l'époque, en tout cas, les prises de position se font dans ces termes-là. Belin passe avec ses amis, avec un certain nombre de ses amis de la tendance syndicat, et le maréchal Pétain lui offre le poste de ministre du Travail, qui va tenir jusqu'en 1942, jusqu'à la fin 1942. Il va le cumuler même pendant un moment avec le portefeuille de la production industrielle. Donc c'est Belin qui se retrouve ministre du Travail, et c'est Belin qui signe, paradoxalement, le décret de dissolution des confédérations syndicales. Il n'a pas signé que ça d'ailleurs, parce qu'avant il a quand même signé, il fait partie des ministres qui ont signé le statut des Juifs. Donc, on allait à Vichy, on soutenait le maréchal, mais enfin, il n'y avait pas que ça. Donc, mais alors, attention, je dis bien le décret dissout les confédérations syndicales. Il ne dissout pas les syndicats. On dit les syndicats ont été dissous par Vichy. C'est pas vrai. Ce sont les confédérations qui ont été dissoutes. Or, comme vous le savez, dans le mouvement syndical, l'organisation, il faut toujours distinguer les niveaux. Le syndicat, c'est la structure de base des organisations syndicales. C'est là où les adhérents s'organisent selon le métier, l'entreprise, tout ce qu'on voudra. Dès qu'on arrive au niveau supérieur, on a l'échelon de la fédération. La fédération, c'est l'organe national professionnel qui regroupe
les syndicats de la même activité. Un syndicat de la, une fédération de la métallurgie regroupe tous les syndicats de la métallurgie, mais les syndicats sont les structures de base. La fédération des services publics rassemble tous les salariés des collectivités territoriales et de la santé à l'époque. Mais au-dessus de ces fédérations, on a les confédérations qui chapeautent l'ensemble. Alors j'oublie une structure quand même qui a son sens, qui sont les unions départementales de syndicats. Donc le syndicat qui est la base dans l'organigramme syndical, si vous voulez, il est doublement rattaché d'un côté à sa fédération professionnelle, de l'autre côté à son union départementale. Et au-dessus de tout ça, le chapeau, c'est la confédération qui, comme son nom l'indique, regroupe des structures déjà fédérées. Ça, c'est la structure du syndicalisme français et de pas mal d'autres. Et Vichy ne tape que l'étage supérieur. Ce qui est dissous, ce sont les confédérations, mais pas les autres organes. Les fédérations sont maintenues, les syndicats de base sont légaux, les unions départementales aussi, elles ont été oubliées, elles, on aurait dû les dissoudre, elles sont évoquées nulle part. Alors pourquoi ils dissolvent pas? Parce que, bon, là c'est la politique de Belin et de ses amis. Belin qui va essayer de mettre en place, il va y arriver d'ailleurs laborieusement, ce qu'on va appeler la charte du travail. Et la charte du travail, c'est, alors la charte c'est un ensemble législatif qui avait pour but d'organiser les relations professionnelles dans ce cadre corporatiste. Et l'idée de Belin, c'était d'intégrer les syndicats et les fédérations dans la charte du travail. Donc, pas forcément de les dissoudre, en tout cas, tant que la charte n'était pas mise en place, on pouvait garder les vieilles structures. Et l'idée, c'était, une fois la charte installée, alors on va fondre ces anciennes structures syndicales dans les nouvelles structures de la charte. C'était sa logique. C'était pas celle de tout le monde à Vichy. Et notamment, dès qu'il va travailler sur la charte dans cette optique-là, il va se heurter aux technocrates du cabinet du maréchal, comme on dit, et aussi à tous les autres, à DA, au RNP, enfin à tous les fascistes de Vichy, qui pour eux, le vieux syndicalisme, il fallait le détruire de haut en bas. Il ne s'agissait pas d'intégrer les syndicats, il s'agissait de les démolir. Et Belin, alors il en a tiré cette justification-là, il ne sera pas condamné à mort, Belin, à la Libération. Hein. Il sera déchu de ses droits syndicaux, parce qu'il a quitté le navire, au bout d'un moment, il a quand même compris, c'était pas un fasciste, si vous voulez. Hein. Donc lui, il avait un projet, ce projet d'intégration dans une. C'était un corporatiste, mais il n'avait pas un discours. En tout cas, il était hostile à la collaboration avec l'occupant. Il a été réchappé pour ces raisons-là. Mais son projet à lui, c'était d'intégrer le syndicalisme, c'était pas de le détruire. Hein. Alors de l'intégrer, d'aucuns diraient, et on dit à juste titre, que l'intégrer, c'était le détruire. Mais en tout cas, ce n'était pas la même chose que de liquider tout le monde et de les mettre en prison, comme l'avait fait Hitler avec les syndicats allemands. Mussolini avait intégré, lui, ce qu'il pouvait, hein, pas tous, mais ce n'était pas la même chose que la destruction physique qu'il y a eu des syndicats en Allemagne. Donc il va y avoir... Alors, cet épisode de la charte... La charte du travail, en réalité, va mettre un temps fou pour s'installer à cause de ces divergences internes à Vichy. C'est-à-dire que le projet que porte Belin n'est pas porté par les autres. On passe, il est rapporté énormément de tensions, de portes claquées, de démissions, enfin menaces de démission, d'arbitrage du maréchal, qui tenait quand même à garder Belin, parce que c'était aussi. Belin lui-même d'ailleurs l'a écrit, il a dit au fond, assez vite, les dirigeants des fédérations ont été acquis à l'idée de cette participation aux organes du gouvernement. Par contre, les ouvriers, non. Et c'est vrai que ce qui est très frappant, c'est de voir que les structures syndicales ne sont pas dissoutes, comme je l'ai dit, mais elles se vident. Tout le monde s'en va. Il y a très peu de syndicats qui vont garder leurs adhérents, sauf alors les syndicats légaux, je parle. C'est-à-dire qu'il va rester, pendant toute la période de l'occupation, des syndicats légaux, avec une différence entre la zone occupée, évidemment, et la zone dite libre, qui sera occupée par la suite, mais... avec des problèmes de coordination, de communication, mais, si vous voulez, ce qui reste, il reste des fédérations professionnelles. La fédération des cheminots, par exemple, elle reste en place. Alors, elle reste en place épurée des communistes. Hein. Attention, il y a déjà eu, en 1939, cette épuration. Donc, ce qui reste, c'est les confédéraux. Et ce qui est très frappant, c'est de voir les débats qu'il y a dans ces fédérations, où on voit très nettement qu'une grande partie d'entre elles sont bélinistes, enfin, c'est les soutiens de Belin, des gens de la tendance syndicat, mais qu'à l'intérieur de ces fédérations, il y a aussi des gens de la tendance Jouot, des confédérés qui, eux, ne sont pas sur la ligne d'intégration. Et c'est assez curieux de voir que pendant toute la durée de ce régime, qui est un régime autoritaire, hein, puis après il y aura la milice, et puis après il y aura toutes les exactions qui vont lui donner une coloration absolument détestable, mais on voit dans ce syndicalisme légal des débats pratiquement au grand jour avec des gens qui s'opposent à la charte du travail. Il y a des délibérations, alors pas tout à fait au début, mais après 41-42, on commence à voir, j'ai l'exemple de la Fédération des cheminots, dans la métallurgie, dans la Fédération de la métallurgie, alors le secrétaire général c'est Marcel Roy, c'est un type, il est ultra collaborationniste. Il participe à la revue qui s'appelle, c'est pas au travail, c'est l'atelier, alors l'atelier c'est du moulin, c'est tous ceux qui exaltent la révolution nationale, alors eux ils sont bien, hein, ils sont bien dans la ligne, donc Roy il est là-dedans. Il participe aux organes de la charte, il est copain avec Pucheux, et bon, pas de problème. Bon. Sauf que dans son secrétariat de fédération, il a aussi des gens qu'on va retrouver dans la fédération FO des métaux après-guerre, qui eux ont des liens avec la résistance. Pas en 41, mais rapidement en 42, ce sont des gens qui sont en désaccord avec la charte, avec le projet de charte du travail et avec la charte. Mais tant que la charte n'existe pas, les syndicats restent légaux. Et après, quand la charte va être publiée, c'est le 4 octobre 1941, il va y avoir des tentatives pour intégrer les syndicats dans la charte, mais auxquelles tous vont résister. Ils vont faire, alors résister entre guillemets, hein, c'est pas résister de la grande résistance, c'est pas la résistance de la clandestinité, c'est tout bêtement le refus du changement. Hein. C'est, pourquoi se précipiter ? Alors on a par exemple l'exemple dans le bouquin, il y en a un qui a étudié, la fédération des coiffeurs. Il y a à l'époque une fédération des coiffeurs, il y a plein d'adhérents, il y a beaucoup de coiffeurs. Donc il y a une fédération des coiffeurs qui, alors elle, est totalement collaborationniste. Les dirigeants n'ont aucun état d'âme sur, y compris la politique à l'égard des juifs de Vichy. Les dirigeants, ça ne les dérange absolument pas. Par contre, quand on leur dit « la charte du travail est publiée, bah maintenant il faut que votre syndicat vienne se fondre dans les familles professionnelles de la charte », alors là ils disent « oui, oui, bien sûr, on est pour, on le fera quand tout le monde l'aura fait dans le pays ». Et tout le monde dit ça. Il y a une espèce de ils organisent une lenteur absolue, une espèce de tout le monde traîne les pieds, ce qui fait que la charte n'aura pas le moindre début d'une application, sauf sur un point, qui était les comités sociaux. Puisque, alors la charte du travail, il faut savoir qu'elle n'est jamais rentrée en application, mais c'était une usine à gaz absolument invraisemblable. L'autre jour, là, au séminaire des historiens, il y en a un qui disait avoir vu dans les archives, ce qui avait été fait et qui était sans doute discuté à haut niveau, un grand tableau où il y avait toutes les structures de la charte. Alors, il paraît que c'était un organigramme absolument extraordinaire. Il y avait des comités sociaux d'entreprise, des comités sociaux départementaux, des comités sociaux professionnels et au-dessus, des comités sociaux qui encadraient tout ça. Et puis, à côté de ces comités sociaux, il y avait des familles professionnelles. Hein. On voulait restructurer le champ des fédérations avec des familles professionnelles. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais par exemple, est étudiée la famille du cuir, avec tous les travailleurs du secteur du cuir. À l'époque, il y en a beaucoup. La famille du cuir, donc c'était ouvriers et salariés du cuir, avec des gens du ministère de la production industrielle qui s'occupaient de ce secteur. Donc il y avait des familles professionnelles. Et à côté de ça, il y avait aussi les comités d'organisation, avec des comités d'organisation départementaux, de branches et un comité d'organisation globale. Enfin, c'est absolument hallucinant d'avoir pu penser que ce truc-là pourrait marcher. C'était un défi à la raison. Donc il y avait déjà beaucoup de raisons objectives pour que ce truc-là ne marche pas. Et en réalité, les syndicalistes n'en voulaient pas, même les plus participationnistes au régime. On fait croire un moment qu'il marcherait dans l'affaire, mais en réalité se sont cabrés face à ces nouvelles structures, si bien que, curieusement, j'insiste là-dessus, ce régime qui était un régime autoritaire n'a pas fait grand-chose pour qu'advienne véritablement la charte du travail. En 43, il y a même des fédérations, je pense à celle des cheminots, qui n'étaient d'ailleurs pas directement concernées par la charte du travail, qui s'appliquait uniquement aux privés. Mais il était prévu pour les secteurs publics à statut, comme l'était la SNCF neuve à l'époque, hein, puisqu'elle est née en 37, il était prévu une charte des cheminots. Bon. Et en 43, il y a un conseil national, donc les cheminots ils ont accès au train, c'est les seuls qui ont pu se réunir au niveau national pendant la guerre, mais en 43, enfin c'était quand même en pleine occupation, le conseil national des cheminots rejette la charte des cheminots. Et le Liard, qui est leur secrétaire général, alors lui c'est pas un bontain maréchaliste, va voir le directeur général de la SNCF et puis il lui dit, mais il y a un mécontentement tel parmi les agents que je n'exclus pas une grève. Il y a eu des mouvements, hein, pas beaucoup, hein, rien à voir avec les grèves qu'il y a eu avant. Il y a une chercheuse qui a fait le bilan sur l'Île-de-France, elle a trouvé 130 débrayages hein, pendant les 4 années d'occupation. C'est pas énorme, il y a eu quelques petits débuts de manifestations, mais évidemment pas grand-chose, hein, les conditions. Il y a eu ici quand même une grande grève dans les bassins houillers du Nord, avec l'armée allemande qui tournait autour. Enfin, il y a quand même eu des moments... Là, on peut parler d'héroïsme, là, parce que c'était pas évident. Hein. Donc, il y a eu des mouvements comme ça. Mais il y a eu surtout beaucoup de pressions, de menaces. Il y a une étude dans le bouquin sur l'Opéra de Paris, par exemple, qui était dirigée à l'époque par Serge Liffard, grand danseur qu'on a connu après, qui a d'ailleurs été assez collaborationniste. Je ne sais plus très bien comment il s'en est tiré à la Libération, assez bien, mais c'est presque étonnant. Enfin, il y avait un statut un peu particulier de l'Opéra, puisque... On faisait de temps en temps des représentants pour les hauts dignitaires allemands qui étaient à Paris. Et d'ailleurs, à l'Opéra de Paris, il y avait un syndicat des techniciens et des artistes qui était vraiment revendicatif. Ils ont d'ailleurs un soir laissé le rideau baissé alors qu'il y avait l'état-major allemand qui venait voir un spectacle. Il fallait le faire, quoi. Alors, il y a eu des héros comme ça, hein, mais il ne faut pas non plus exagérer le tableau. Il n'y a pas eu... c'était pas tout le monde dressé qu'on faisait avec. Hein. Mais il y a eu quand même des formes de refus, des formes de passivité, si vous voulez, par rapport au régime qui montrait bien que, même s'il y avait une couche de responsables syndicaux qui idéologiquement étaient à peu près acquis au régime, dessous ça suivait quand même pas beaucoup. Alors je vais quand même songer à finir. Les comités d'organisation, ils sont restés, eux. C'est eux qui ont été la base des comités d'entreprise en 1945. On a très rapidement pris un décret d'installation des comités d'entreprise, parce qu'en fait, la structure était quasiment déjà là. On leur a donné d'autres vocations, évidemment, et puis surtout, le principe électif, le principe d'élection, qui était quand même fondamental. Mais disons qu'il y a déjà, il y a quand même eu quelques trucs qui sont restés de cette période-là. Je voulais quand même... Ah oui, deux choses pour terminer. Un, le changement, parce que quand on aborde cette période, il faut bien prendre soin de périodiser. La question de la résistance ne se pose pas en 1941 dans les mêmes termes qu'en 1943 ou 1944. L'année 1943 est évidemment décisive. Elle s'ouvre par la capitulation allemande à Stalingrad, qui montre quand même un changement militaire. Sur le plan militaire, l'espoir change de camp. On voit que là... Il y a un échec de l'armée allemande, c'est quand même le premier qui est aussi manifeste. Ensuite, on a au mois de mai la création du Conseil national de la résistance, qui symboliquement résonne, c'est connu, on commence à... c'est connu, pas tout le monde ne connaît pas, mais il y a quand même la radio Londres, etc. Il y a des choses qui passent, il y a le bouche à oreille, ça se diffuse sous le manteau. Il y a aussi quand même un événement qui, dans le champ syndical, va changer les choses, c'est en avril 1943, la réunification symbolique de la CGT dans la résistance, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les accords du Péreux, parce que c'est le petit village d'Île-de-France, région parisienne, où deux responsables ex-confédérés et deux responsables unitaires se rencontrent et signent un papier dans lequel ils disent la CGT est réunifiée.
Voilà. À
4. Ils avaient un mandat quand même. Hein. Ils étaient mandatés parce que les gens quand même se voyaient. Jouot était en résidence surveillée dans le Lot. Mais bon, il avait quand même contact, etc., tout ça. Alors, évidemment, le syndicalisme clandestin, ça n'a pas grand sens. Hein. Mais symboliquement, ça a été très important, parce que dans les fédérations que j'évoquais tout à l'heure, ça a été un déclic quand même. Les unitaires, évidemment, eux, ils étaient, malgré les appels de Frachon, ils étaient très peu dans les syndicats légaux. Ils étaient dans les syndicats, ils étaient dans des structures illégales. Ils avaient monté des comités populaires pendant la guerre, hein, ça c'est plus le Parti communiste en tant que tel que la CGT, mais... Bon, c'était un peu souvent les mêmes individus, donc il y avait une structure sous-jacente, si vous voulez, qui était illégale, mais enfin, sur le plan syndical, ça avait évidemment pas, ça ressemble pas à un fonctionnement tout à fait courant. Donc en 1943, les choses changent, et c'est là qu'il y a des choses qui vont se débloquer, ce que j'évoquais sur les cheminots, la Fédération des services publics aussi, en 1943, décide qu'elle n'appliquera pas la charte, enfin la charte ne s'appliquait pas à eux, mais elle quitte la famille professionnelle de la santé. Il y a un représentant du gouvernement qui est là, qui essaie de les convaincre. Ils disent non, nous on ne veut pas des organes, on n'ira pas dans les organes de Vichy. Enfin, il y a une espèce de dissidence civile au grand jour hein, qui se crée dans cette période, mais on voit bien aussi, 43, ça commence à, on commence à penser à l'après hein, aussi, et la création du CNR va être aussi un moment important dans lequel d'ailleurs la CGT et la CFTC vont prendre toute leur place. Le Conseil national de la résistance, hein, qui se crée à cette époque-là, sous la présidence du général de Gaulle. C'est Jean Moulin qui va en être le premier président, mais une fois après que Jean Moulin soit arrêté, c'est Louis Saillant qui va prendre la présidence. Louis Saillant est un ex-confédéré, c'est le représentant de la CGT au CNR. Deuxième point, au fond, on peut s'étonner, enfin, on pourrait s'étonner légitimement de savoir comment des syndicalistes peuvent se retrouver dans une configuration comme ça, à Vichy. Parce qu'ils s'appuient quand même sur des choses pour légitimer leur rôle. Alors, ils s'appuient principalement sur deux choses. La première, c'est ce que la CGT appelait la politique de la présence. J'en ai parlé, je crois, la dernière fois, c'est Jouot qui théorisait ça. Il disait, il faut être là où les intérêts ouvriers se discutent. Il disait ça en 1919, pour justifier de participer à des organes, ou en tout cas en revendiquer en 1919, il voulait un conseil économique et social, bon, il ne l'a pas eu, mais la politique de la présence, c'était ça, c'était d'instaurer dans la société des lieux où les syndicats seraient présents pour imposer les intérêts ouvriers. Alors, ils reprennent tout bêtement ça, sous Vichy, en disant, bah, il y a les organes de la charte, il y a des syndicats, ils sont légaux, bah, faut être là, parce que les intérêts ouvriers se discutent. Donc, ils s'appuient sur une certaine continuité, la politique de la présence. Bon, là, en réalité, ils défendent personne. Les intérêts ouvriers, ils ne sont pas hein, dans ces structures-là. Mais enfin, ils développent aussi une tendance qui avait commencé à exister un peu dans le syndicalisme confédéré, qui était ce syndicalisme d'experts. C'est-à-dire, on défend les ouvriers. On pourrait leur dire, oui, mais comment vous êtes sûr que ce que vous défendez, c'est bien ce que pensent les ouvriers? Vous leur avez demandé, vous ne pouvez pas leur demander. De toute façon, il n'y avait aucune liberté publique. Il n'y a pas le droit de se réunir. Hein. Mais eux pensaient savoir ce qu'était l'intérêt des ouvriers. C'est ça que j'appelle le syndicalisme d'experts. Hein. C'est un syndicalisme de savoir préconstruit. On pense qu'on défend les travailleurs parce que ce qu'on dit, c'est ce qu'ils pensent. Ah bon, pourquoi, comment, bon. Mais c'est au nom de ça, en tout cas, qu'ils participent à ces organes-là. La deuxième notion sur laquelle ils s'assiedent, c'est au fond, alors là, ils se revendiquent de la charte d'Amiens, du syndicalisme français, j'en ai parlé, là, cette charte d'Amiens, constitutive de l'identité syndicale française, qu'on a appelé un texte pan-syndicaliste, c'est-à-dire qui prône la responsabilité politique du syndicat, un certain antiparlementarisme qu'il y avait dans la charte d'Amiens, qui se défie des partis politiques, c'est vrai, et il se recommande de ça, et de cette idée, au fond, que le syndicat n'a pas à tenir compte de la couleur politique du régime. Qui est une notion, d'ailleurs, couramment reprise par les syndicats, en disant, ben, nous, on est syndicats, sous la gauche, sous la droite, on est toujours des syndicats, on n'a pas à tenir compte de la couleur politique du régime. Donc cette idée-là, qui est une vieille idée, hein, dans le mouvement syndical, eh bien, elle est mobilisée pour justifier, légitimer la présence à Vichy. Le seul problème, évidemment, c'est que... alors, le troisième thème, qui était important, c'est celui du corporatisme, que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il y a des débats dans l'avant-guerre, qui ne se recommandent pas du corporatisme, mais de ce qu'on appelle la profession organisée. C'était d'ailleurs le thème... le slogan de la CFTC à l'époque, qui était « le syndicat libre dans la profession organisée ». Et donc, dans cette notion de profession organisée, le terme est repris dans la charte du travail, d'ailleurs. L'idée de la charte, c'est d'organiser les professions. Et ça, c'est une thématique qui existait dans l'avant-guerre, dont les gens de Vichy se recommandent. À ceci près qu'ils ont oublié, là aussi, le premier membre de la phrase, c'est-à-dire « le syndicat libre ». C'est pas, ça fait quand même plus qu'une nuance. Et le syndicat libre, c'est pas seulement le syndicat auquel l'adhésion est libre. Parce que dans la charte du travail, l'adhésion au syndicat est obligatoire. Cette idée d'adhésion obligatoire, qui a curieusement d'ailleurs ressurgi dans le paysage politique à la faveur d'une élection présidentielle récente, heureusement pas longtemps, n'a existé que dans la charte du travail. Il n'a jamais, heureusement, été mis en application. Mais, donc, le syndicat libre, c'est le syndicat auquel on peut librement adhérer ou ne pas adhérer. C'est une liberté qui est largement utilisée en France, d'ailleurs, la liberté de ne pas adhérer au syndicat. Mais c'est le syndicat libre, c'est aussi le syndicat qui a le droit de réunir librement ses adhérents, de décider des revendications qu'il veut mettre en avant, etc. On en était très loin, évidemment, avec Vichy. Donc il y a dans tout ça un peu une usurpation, et finalement la question fondamentale, c'est la question du régime de liberté publique qui encadre ou pas l'activité syndicale. Et en fait, on se rend compte, et ça c'est
un bilan qu'on peut faire après, enfin ce qu'on apprend sur le syndicalisme dans des périodes comme celle-là, c'est que finalement l'État syndical est indissociable de la question de la démocratie, de la question du régime de liberté publique, et que penser un syndicalisme purement professionnel, détaché des enjeux de la chose publique, est en fait une illusion dont on voit bien ce qu'elle peut produire dans des circonstances comme celle de Vichy. Alors, bon, après, il y a la libération arrive, vous savez que les structures illégales des syndicats, ceux qui sont dans l'illégalité vont progressivement venir à jour avec le mot d'ordre de grève insurrectionnelle qui émerge le 10 août 1944. Elle vient d'abord de chez les cheminots, puis après, elle va s'étendre à d'autres, puis il y a un mot d'ordre général sur Paris de grève insurrectionnelle le 13 août 1944 qui va s'étendre au PTT, etc. Donc, et un des premiers actes du gouvernement de la France libre, ça va être de rétablir les syndicats dans leurs droits et dans leurs biens antérieurs à la dissolution de novembre 1940. Et va être mis en place, c'est intéressant à regarder ce qu'elle a laissé d'ailleurs, une commission d'assistance à la reconstitution des organisations syndicales de travailleurs. C'est une commission syndicale, c'est un décret qui la met en place, mais elle est constituée uniquement de syndicalistes, dans lesquels les ex-confédérés sont majoritaires d'ailleurs, et c'est eux qui vont encadrer la reconstitution syndicale, c'est-à-dire ils vont dire qui peut revenir et qui ne peut pas. Parce que l'idée, c'était ce qu'on appelait une épuration syndicale. L'épuration entre guillemets, parce qu'il y a eu une épuration dans le pays. Il y a eu à peu près 10 000 exécutions, dont on n'est pas sûr que tout est vraiment satisfait aux procédures habituelles de la justice. On a réglé des comptes en pagaille. Dans le champ syndical, il n'y a pas eu beaucoup de morts, il y a dû y en avoir quelques-uns, mais la question, c'était de savoir qui est encore digne d'être représentant syndical à la libération. Donc cette commission nationale d'épuration, il y avait une commission nationale et des commissions départementales. Alors c'est intéressant, parce qu'il y a des archives, évidemment, de la commission nationale, de voir comment ils ont travaillé. Quelle a été l'ampleur, en fait, de l'épuration syndicale, ce qui nous donnerait une idée sur l'ampleur de tout ce que j'ai évoqué avant. Est-ce qu'il y a eu vraiment un mouvement syndical sous l'occupation? En fait, il y a eu pas mal de gens exclus au niveau départemental. Ils pouvaient se servir de la commission nationale comme appel. Donc il y en a qui n'ont pas fait appel, il y en a qui ont fait appel, donc il y a des dossiers au niveau national. En fait, la commission a prononcé 320 exclusions à vie du syndicalisme. C'est 137 exclusions à vie pour 320 condamnations. Finalement, c'est pas énorme. Mais ce qui est intéressant, c'est que la commission a dû faire l'effort de créer des catégories, d'essayer de catégoriser l'attitude des gens. Parce que c'est assez difficile de... Alors bon, il y avait des ultra-collabos, il y en a eu dans le syndicalisme, Dumoulin, lui, il a rendu compte, y compris à la justice civile, de ses actes de collaboration, mais il n'y en a pas eu énormément. Ceux qui ont participé au COSI aussi. Alors le COSI, c'était un comité d'entraide aux victimes des bombardements alliés. Ça a été créé en 1942. Alors ça, déjà, on peut voir, mais c'est surtout les fonds du COSI étaient abondés par la spoliation des biens juifs. Alors il y en a qui ont siégé là-dedans, pas beaucoup parmi les syndicalistes, mais ça sentait le soufre, ça, dans la commission d'épuration, ceux qui avaient été au COSI, c'était pas la peine qu'ils fassent appel, ceux-là ils étaient grillés d'entrée de jeu. Alors après, quand on allait dans les revues, c'est plus compliqué. Ceux qui ont participé à l'atelier, alors oui, eux, il fallait partager les idéaux de la Révolution nationale pour écrire dans l'atelier. Par contre, la revue Au Travail, non, il y en a certains d'ailleurs qui ont écrit là-dedans et qui sont passés à la résistance après. Donc, vous voyez, mais ils ont essayé, eux, de faire des catégories, de dire, où est-ce que ça... Finalement, ils ont cherché en permanence où était la ligne jaune. Elle a bougé, au fur et à mesure de l'avancée des différentes périodes. Mais, au fond, c'était à partir de quel moment ça marche plus, quoi. À partir de quel moment on peut dire qu'il n'y avait pas besoin d'être ultra, de partager, etc., pour faire ça. Participer aux familles professionnelles, par exemple. Ça a rarement été jugé comme un acte d'indignité nationale. On a dit oui, alors il y en a certains, je pense à Marcel Roy, là, ce fameux dirigeant de la métallurgie. Il était ultra collabo, lui. Mais en même temps, ses anciens collègues ont dit oui, mais nous, on était liés à la résistance, au secrétariat de la fédération. Il le savait, Roy. Il n'a jamais dénoncé personne. Et c'était vrai en même temps. Donc il y a eu toutes ces situations qui étaient. C'est une ère d'ambiguïté. Quand il a fallu juger les comportements individuels des gens, c'était pas tout à fait simple. Ils ont cherché des critères objectifs, ils ont eu beaucoup de mal à en trouver. Mais on a vu émerger cette... Alors ça, c'est pas dans la commission, mais c'est les historiens depuis, une catégorie qu'on a appelée les vichysso-résistants. Alors, c'est quoi les vichysso-résistants? D'une certaine manière, Mitterrand, ça a été un peu ça.
C'est les gens qui sont allés faire un bout de chemin à Vichy, puis après, bon, bah, d'abord l'Allemagne a commencé à avoir des difficultés, donc le, hein, il y a des effets de gens qui ont avancé un peu au doigt mouillé. Hein, le vent tourne, il faut peut-être s'intéresser à d'autres. Enfin, bon, tous les comportements assez humains, finalement, ont éclos dans cette période et dans le champ syndical comme ailleurs. Mais c'est intéressant de voir tout ce travail qui a été fait de catégoriser et que finalement, bon, il n'y a pas énormément de monde qui a été exclu à vie à la reconstitution. D'ailleurs, le Conseil d'État s'en est ému 2-3 ans après en disant que les commissions avaient prononcé des jugements, surtout au niveau local d'ailleurs, qui étaient un peu trop radicales. Et d'ailleurs, Force ouvrière, quand elle s'est constituée en 1949, elle a décidé de revenir sur un certain nombre de jugements et il y a des gens qui sont revenus à FO à cette période-là. En tout cas, ça explique une chose, ça sera mon dernier mot, enfin il est tardif, c'est pourquoi dans les fameux critères de représentativité des syndicats qui ont tant fait gloser jusqu'à une période récente, puisque maintenant on en a changé, il y avait ce critère de l'attitude patriotique pendant la guerre, parce que ça a été un des critères de reconstruction des organisations syndicales à la libération.